7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 mai, le système Balkany devant la justice. Pour commencer, le maire de Levallois et sa femme comparaissent à partir d'aujourd'hui, et ce pour 6 semaines. Fraude fiscale, corruption, on les soupçonne de tout cela, c'est un de leurs anciens proches qui a tout déballé. Témoignage exclusif et enquête à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Il s'appelait Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. La France leur prépare un hommage national. Il aura lieu demain. Les deux soldats d'élite sont morts dans l'opération de sauvetage des otages enlevés au Bénin. Vous l'entendrez, l'émotion des familles, bien sûr, dès le journal de 7h. Dans quelques instants avec Hélène Zélani, à 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy. Coup d'envoi de la campagne officielle des européennes. À 2 semaines des élections, les grands patrons européens s'engagent contre la montée des nationalismes et des populismes. L'édito écho de Nicolas Barré à 7h15. À 7h45, on va partir sur la croisette pour fouler le tapis rouge, un peu avant le coup d'envoi du festival. Car le festival commence dans 24 heures et son président, Pierre Lescure, sera mon invité. Voilà pour le programme. Très heureux d'être à vos côtés pour bien commencer la semaine en ce 13 mai. Jusqu'à 9h, on est ensemble. Bonne reprise et bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1. Bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour ma chère Hélène Zélani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Douleur et fierté pour les familles des deux militaires des forces spéciales décédés au Burkina Faso en sauvant des otages. Vous entendrez les proches d'Alain Bertoncello qui s'apprête à quitter la Haute-Savoie pour participer à l'hommage national de demain. Plan de départ volontaire chez Air France. 465 salariés au sol devraient être concernés. La compagnie est en difficulté sur les courts courriers à cause de la concurrence des low cost et du train. Et puis le foot des supporters foudrage qui tentent d'envahir le terrain. Grosse tension au stade Vélodrome hier soir où l'OM s'est incliné face à Lyon 3-0.
8h15.
Europe 1.
Ils ont donné leur vie pour sauver celle des autres. Un hommage national sera rendu demain à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les militaires du commando Hubert, unité d'élite de la marine française, tués lors de l'opération pour libérer 2 touristes français au Burkina Faso. Les familles en deuil assisteront à cet hommage. Rémi Pierre a rencontré en Haute-Savoie la famille d'Alain Bertoncello, pleine de fierté malgré la tristesse.
C'est aujourd'hui que Jean-Luc et Daniel, ses parents ainsi que ses 2 sœurs aînées vont quitter la maison familiale où le jeune commando a passé son enfance dans un petit village près d'Annecy. Une famille frappée par un immense chagrin depuis qu'ils ont appris la mort d'Alain vendredi dernier. Une famille qui connaissait le danger que ses missions au sein du commando Hubert lui faisaient courir. C'était sa volonté de servir dans l'armée. Il a fait ce qu'il voulait et je suis très fier de lui malgré la douleur. Avance sa mère, Danielle, une fierté partagée par son père, Jean-Luc.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon fils, il a fait son job, quoi. Il a réussi sa mission. Il a participé à une mission aussi. S'il peut servir à donner des exemples, ben tant mieux, tant mieux. Ma femme et moi, on est tous les deux enseignants. On a eu le témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui nous a dit « J'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix. Elle veut intégrer l'armée. » Ça fait partie de la vie du militaire. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Élysées, pour lui, c'était un honneur. Donc aujourd'hui, ça sera un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier, quoi ? Je veux dire, on vient de perdre son fils, si en plus, si on n'est pas fier, je ne comprendrais pas, quoi. Enfin, moi, oui, je suis fier de mon fils.
Après cet hommage national, la dépouille d'Alain Bertoncello sera ramenée ici, en Haute-Savoie, et plusieurs de ses camarades du commando seront là samedi prochain pour la cérémonie funéraire. À Montagny-les-Lanches, Rémi Pierre, Europe 1.
Et les deux militaires devraient recevoir la Légion d'honneur à titre posthume. L'hommage national présidé par Emmanuel Macron se tiendra demain à 11h aux Invalides. Les Français sont invités à venir nombreux dès 10h sur le pont Alexandre III pour saluer la mémoire de ces deux militaires. Et puis, hier, dans le nord du Burkina Faso, 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées dans une église catholique en pleine messe. Une attaque perpétrée par un groupe armé de 20 à 30 hommes. Europe 1, il est 7h03.
Un plan de départ volontaire annoncé ce matin par la direction d'Air France.
Oui, plan qui devrait toucher 465 postes de personnel au sol dans une douzaine d'aéroports, dont Marseille, Bastia et Ajaccio. Depuis son arrivée il y a 9 mois, le patron de la compagnie Ben Smith avait réussi à apaiser le climat social, mais au premier trimestre, les pertes se sont élevées à 320 millions d'euros. Il va donc devoir faire des choix pour redresser Air France. Aurélien Fleureau.
Jusqu'ici, Ben Smith nous a caressé dans le sens du poil. Maintenant, on arrive dans le dur, résume un syndicaliste avant la réunion de ce matin. Des syndicats plutôt surpris par le timing de cette annonce, mais pas par son contenu. Le plan de départ volontaire doit concerner le personnel au sol, et plus précisément ceux qui travaillent dans les escales françaises, puisqu'Air France est en difficulté sur le court courrier avec 189 millions d'euros de pertes l'an dernier. Il faut donc stopper l'hémorragie. La compagnie souffre de la concurrence féroce de ses rivaux vols low-cost, EasyJet et Ryanair, bien implantés en France, mais aussi du train. Le déploiement de la LGV vers Marseille, Bordeaux ou Strasbourg a fait mal, avec à chaque fois un trafic en forte baisse sur ces lignes. C'est donc là qu'il faudra réduire la voilure, et qui dit moins de rotation dit moins de personnel, d'autant plus qu'il faudra bientôt intégrer les employés de Joon, la marque low-cost long-courrier, qui va disparaître dans quelques semaines.
Aurélien Fleureau. Il n'y aura pas de conseil municipal à Levallois pendant les 6 semaines du procès du maire LR de la ville, Patrick Balkany, avec son épouse et première adjointe Isabelle. Il comparaît à partir d'aujourd'hui, notamment pour fraude fiscale. Ils sont accusés d'avoir dissimulé au fisc plus de 13 millions d'euros. On va y revenir dans Europe 1 va plus loin à 7h15.
Coup d'envoi de la campagne officielle pour les européennes du 26 mai prochain.
Et vous allez commencer à recevoir les professions de foi des 34 listes. Les 34 panneaux sont installés devant les écoles. Et puis à partir de ce soir, vous allez découvrir à la télévision les petits films qui doivent vous aider à choisir des clips très codifiés. Jean-Rémy Baudot a pu se glisser dans les coulisses du tournage de celui d'Alliance Jaune, qui n'est autre que le parti du chanteur Francis Lalanne.
Silence, ça tourne.
Devant les caméras, Francis Lalanne enregistre son texte. Dans son pull jaune fluo, il scande « carton jaune à Macron, carton jaune au système ».
Nous, on a une nouvelle offre qui s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est pas décider qui va décider pour un peuple. La démocratie, c'est décider. Pour nous, les Européennes, c'est le point de départ de ce projet.
Le chanteur, tête de liste d'Alliance Jaune, partage avec ses colistiers, pas tous à l'aise, les 90 secondes de leurs deux clips qui seront diffusés sur le service public.
Je peux le refaire une fois, prends bien ton temps.
Au total, 19 listes bénéficieront gratuitement de ces vidéos réalisées par France Télévisions. Les autres, souvent les grands partis, ont eux-mêmes produit leurs films.
Plus on est petit, plus on devrait avoir de temps de parole. L'égalité selon le régime actuel, c'est plus on est puissant, plus on a la parole. Et moins on est puissant, moins on a la parole.
De son côté, le CSA promet de veiller au grain. Tous les clips seront d'ailleurs validés avant leur diffusion. Une visibilité maximale à une heure de grande écoute. Francis Lalanne et ses amis Gilets jaunes pensent qu'ils renforceront une dynamique déjà en leur faveur.
Vu l'acharnement que l'on met en ce moment à essayer de nous discréditer quelque part, on est en train de monter dans les sondages. Oui.
Saint-Denis, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. On vous emmène au Venezuela où la population désespère de voir arriver l'aide humanitaire. On vous dit tout dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.
Votre matinale info, Nicolas Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Direction maintenant le Venezuela, où l'aide humanitaire n'arrive toujours pas, alors que la population est toujours dans le dénuement le plus total.
L'opposant Juan Guaido en avait fait un symbole de sa lutte contre le président Maduro. Cette aide humanitaire, elle devait entrer par la frontière colombienne, mais aujourd'hui, personne ne sait où elle est. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock.
Ce jour-là, il n'y a pas d'électricité. Les couloirs sont vides, pas un médecin pour s'occuper des malades. L'hôpital semble abandonné. Adossée à la porte d'une chambre obscure, Isabella regarde son frère dormir sur un matelas crasseux posé sur un lit rouillé. Le cancer dont il souffre ne peut pas être soigné, faute d'équipement pour la chimio.
Il n'y a rien ici. On a dû se cotiser dans la famille pour acheter nous-mêmes des médicaments. Pour soulager mon frère, même pas pour le soigner.
Les patients apportent également leur propre nourriture. Les cuisines sont pleines de rouille, les douches sont infestées d'insectes et sentent les égouts. Mais ce qui brise le cœur de Yorki Villegas, une infirmière, ce sont les enfants qui meurent de malnutrition.
Je suis mère, moi aussi. Ça me rend malade de voir des bébés qui meurent de faim. On a besoin de cette aide, mais on ne sait pas où elle est, ni même si on l'aura. Personne ne sait où se trouve l'aide qui est entrée dans le pays.
Le problème, c'est la corruption, explique Feliciano Reina de l'ONG Acción Solidaria, qui distribue régulièrement des médicaments.
On a déjà démantelé un réseau qui se faisait faire de fausses prescriptions et qui revendait ensuite les médicaments au marché noir.
Un médecin, expert auprès de l'Assemblée nationale, a estimé dans une étude qu'au minimum 30% de l'aide était ainsi détournée avant d'être distribuée. Caracas, Mathieu Bock, Europe 1.
On passe au football maintenant, un vent de colère soufflé hier soir sur les tribunes du stade Vélodrome.
Ouais, des supporters marseillais fous de rage en voyant leur équipe perdre face à Lyon 3-0. Certains ont même tenté d'envahir la pelouse après le troisième et dernier but. Les stadiers et les forces de l'ordre ont dû intervenir. C'est désormais acquis, l'OM ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Un échec que reconnaît l'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia, sous le coup de la déception.
Le mot est faible, je pense, déception. Donc on fera attention sous le coup de cette frustration et de cet énervement de ne pas en dire trop ce soir. Voilà, on va féliciter les Lyonnais. Mais c'est comme ça, c'est un peu à l'image de notre saison pour pas en dire plus.
Voilà, propos recueillis par Jean-François Pérez. Et puis ce soir, place aux Molières qui récompense le monde du théâtre. Alex Vizorek endosse le costume de maître de cérémonie. Et pour la première fois, il n'y a que des femmes dans la catégorie spectacle d'humour. Michel Bernier, Florence Foresti, Caroline Vigneault et Blanche Gardin.
Ma chère Hélène Zellani, vous avez eu la gentillesse de me faire souffler les bougies d'un gâteau tout
joyeux
à l'heure.
Joyeux anniversaire,
oui. Où est le gâteau?
Où est le gâteau? Il arrive.
Fondant chocolat. C'est vous qui l'avez fait, le gâteau?
Bien sûr.
Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry cette semaine sur le terrain, Nikos.
Bonjour Carole.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin?
Je suis dans une maison de retraite. Alors une maison de retraite un peu particulière. À ma gauche, j'ai un lion en cage, je vous rassure. À ma droite, un tigre, car c'est une maison de retraite pour animaux de cirque. C'est à Trets, près d'Aix-en-Provence.
Là, j'entends un coq derrière.
Ici, oui, il y a aussi des coqs, il y a plein d'autres animaux, vous allez voir. Vous avez ici une dizaine de fauves enfermés, mais pas seulement. Écoutez la visite de Cathy, elle est bénévole ici depuis un an.
Chez nous, on a tous nos animaux en liberté, voyez-vous. Là, vous avez Madame Lama qui se balade. Ce couple de lamas nous a été confié par un petit cirque. Ils étaient malheureux. Ensuite, vous avez ce couple de zébus. Alors, vous avez le mâle qui vient vers vous et la petite femelle qui est derrière. Et ils nous ont fait un beau bébé qu'on a appelé Cœur, parce que regardez la petite Cœur, elle a un cœur sur le front. Voilà. Bien. Alors eux, les zébus n'étaient pas malheureux, hein. Ils venaient de chez Medrano, ils étaient très bien traités, mais ils risquaient d'y avoir consanguinité. Quand les cirques ont beaucoup d'animaux comme ça, ils les cèdent à d'autres parts ou d'autres gens du cirque.
Tout ça est géré par l'association Roar, qui accueille aussi des hamsters trouvés, figurez-vous, dans des poubelles, des lapins abandonnés et même des cochons retrouvés seuls dans les rues de Marseille.
Il n'y a pas que les chiens et les chats qu'on retrouve abandonnés, j'imagine. Mais cette réserve est-elle ouverte au public?
Oui, c'est d'ailleurs ce qui permet de financer le fonctionnement, parce que ces animaux, ils mangent beaucoup. Il faut aussi les soigner et tout ça, ça coûte cher.
Mmh. Elle vient d'où cette initiative? Qui est à l'origine de cette idée?
C'est une idée de Sandrine Lebris. Sandrine, c'est l'une des rares femmes dompteuses. Elle a travaillé 27 ans avec les plus grands cirques. Et puis elle a voulu passer à autre chose, mais pas sans ses fauves. Alors aujourd'hui, fini les numéros de cirque, mais elle propose des ateliers pédagogiques. On apprend que les lions et les tigres mangent plutôt de la viande blanche. La rouge, c'est mauvais pour leur santé. Ils partent à la retraite vers 17 ans. Et puis elle continue à impressionner le public avec quelques jeux.
Ça c'est ma saille, un jeu qu'elle a avec moi. C'est le jeu de la gentille lionne et de la méchante lionne. Allez, fais la vilaine lionne!
C'est quoi la vie que vous avez envie de leur offrir ici?
Maison de retraite, c'est-à-dire ils ont travaillé avec nous pendant 11 ans. Maintenant c'est à moi de prendre soin d'eux. Donc c'est du repos, ils vont plus sur les routes. Ils sont là comme moi, voilà, ils sont à la retraite. Je rentre avec eux encore pour faire des jeux. Maïtania, je l'embrasse sur la bouche. Simba, il me mange dans la main. Un animal, on a un devoir. C'est jusqu'à la mort.
C'est magnifique.
Et la retraite se passe plutôt bien, puisqu'un bébé tigre vient même de naître. Hein. Sandrine lui a préparé tout à l'heure le biberon. Et elle voudrait maintenant installer des piscines pour les tigres. Il paraît, figurez-vous, qu'ils adorent nager.
Il paraît qu'il y a un tigre blanc qui est né aussi, un petit Kenzo. Magnifique,
c'est
vous
ça,
l'avez
c'est
vu.
C'est exactement ce que je viens de vous dire, oui. Et Sandrine qui est à côté de moi peut vous le confirmer.
Sandrine, oui. il est mimi, on peut le caresser ou il faut faire attention?
Il faut quand même un petit peu faire attention, mais il est mimi, en ce moment il est avec ma fille de 13 ans, alors j'espère qu'il est mimi.
Bon, caressez-le pour nous, vous le ferez mieux que nous. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, Sandrine. Merci Carole Ferry à la maison de retraite pour animaux à Trets, près d'Aix-en-Provence.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec Nicolas Barré. Dans l'économie, il y a aussi des fauves. Vous nous parlez de quoi ce matin?
Eh bien, je vais vous parler de la campagne des européennes vue par les patrons.
Avec plaisir. 7h20, le procès Balkany. Le maire de Levallois et son épouse sont jugés pour fraude fiscale et corruption. C'est un ancien proche qui a tout déballé à la justice. Témoignage exclusif et enquête à suivre dans Europe 1. Va plus loin, tout de suite.
On reste sur Europe 1. Il est 7h15. Bon réveil à tous. Il est 7h17, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Hommage national demain aux deux soldats tués au Burkina Faso dans l'opération de sauvetage de deux otages français. La population est appelée à venir saluer leur mémoire au passage du convoi funéraire sur le pont Alexandre III. Un plan de départ volontaire annoncé ce matin chez Air France. 465 postes de personnel au sol devraient disparaître dans une douzaine d'aéroports. Football, pas de Coupe d'Europe pour Marseille. La saison prochaine, l'OM a perdu à domicile contre Lyon 3-0. Ça s'est passé hier soir, c'était la 13e défaite en Ligue 1.
Europe 1.
On passe à l'économie à présent, l'édito éco avec la banque Kolb, Nikos, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, bonjour.
Bonjour Nikos.
Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et à l'approche des élections, les grands patrons européens s'engagent contre la montée des nationalismes et des populismes, et tout particulièrement en Allemagne. Expliquez-nous.
Oui, c'est-à-dire que partout en Europe, les dirigeants économiques s'inquiètent d'un repli européen, mais c'est en Allemagne qu'ils osent le dire le plus ouvertement. D'ailleurs, la compagnie aérienne Lufthansa, qui a tout à perdre d'un repli sur les frontières nationales, a fait peindre en grosses lettres sur un de ses Airbus ce slogan politique en anglais « Say yes to Europe », du jamais vu, un avion transformé en panneau électoral volant. Les quatre grandes fédérations patronales allemandes ont aussi publié une déclaration commune, c'est rarissime, pour dire que l'avenir de l'Europe se joue avec ces élections et que des millions d'emplois dépendent du commerce entre des pays européens.
Parce que ce qu'ils craignent, en fait, c'est que les partis populistes remettent en cause le marché unique.
Et voilà, c'est exactement ça. Les patrons allemands pensent exactement la même chose que leurs homologues français, italiens et autres. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, Français, comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Espagnols, on fait plus de la moitié, voire les deux tiers de nos échanges avec nos voisins européens. Et ça, c'est grâce au marché unique. C'est ce fameux marché unique qui permet aux entreprises européennes de bénéficier d'une base naturelle plus importante que chaque marché national et donc de rivaliser, par exemple, avec les Américains qui ont forcément un marché domestique très vaste. Tout ce qui pourrait porter atteinte au fonctionnement de ce marché unique sous les coups de boutoir des partis nationalistes, eh bien, serait mauvais pour l'économie. C'est ça le message de ces patrons. J'ajoute que c'est pour la même raison, d'ailleurs, que les patrons britanniques sont horrifiés par le Brexit.
Alors, en France, en revanche, sous votre réserve, Nicolas Barret, on n'entend pas beaucoup le patronat faire campagne pour l'Europe.
Alors, c'est vrai qu'ils sont plutôt discrets, même si le président du MEDEF affiche clairement son engagement pro-européen. Les patrons, en général, considèrent que s'ils prennent position, de toute façon, ce sera contre-productif. Mais enfin, quand vous parlez avec eux, l'immense majorité disent que sans l'Europe, nous serions balayés par les États-Unis, la Chine et d'autres, et que nous devrions renouer, d'ailleurs, d'urgence avec de grands plans industriels européens, comme lorsqu'on a créé Airbus, mais cette fois, eh bien, dans les robots, les biomatériaux, le moteur à hydrogène et j'en passe. Car dans tous ces domaines, les Américains et les Chinois ont des plans massifs et ce n'est pas en tirant sur l'Europe comme le font les partis nationaux populistes que l'on enrayera son déclin économique. Ça ne fera que l'accélérer. Mmh. Et voilà au fond le message de ces milieux économiques.
C'était Nicolas Barret pour l'édito éco sur Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h20, c'est l'heure Nikos de notre grande enquête quotidienne. Europe 1 va plus loin avec l'ouverture tout à l'heure à Paris du procès Balkany.
Son nom a été cité dans de nombreuses affaires. Pourtant, il n'a été condamné qu'une fois en 1996. Patrick Balkany, le maire de Levallois, est poursuivi pour fraude fiscale, corruption, blanchiment et prise illégale d'intérêts. Il comparaîtra notamment avec sa femme et l'un de ses lieutenants. Et c'est tout le système Balkany qui va se retrouver à la barre pendant 6 semaines. Procès que vous allez suivre pour Europe 1. Salomé Legrand, bonjour.
Bonjour.
Comment cette enquête a-t-elle fini par aboutir ?
Eh bien parce qu'un ancien fidèle a fini par balancer. Didier Schuller, il a été condamné en 2005 pour le financement occulte du RPR alors que Balkany a été relaxé. Schuller estime donc qu'il a servi de fusible quand le maire de Levallois le trahit en 2013 en poussant un candidat face à lui au municipal. C'en est trop. Il rouvre l'enquête des HLM des Hauts-de-Seine et ressort des documents.
Pendant plus de 20 ans, j'ai, pour parler d'une manière un peu abrupte, fermé ma gueule. À partir de 2013, j'ai effectivement eu le comportement, entre guillemets, d'un repenti, c'est-à-dire que, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. J'ai pu m'apercevoir que ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel.
Que révèle cette enquête précisément, Salomé Lagrand ?
Alors d'abord, le train de vie dispendieux des Balkany, 3 demeures au luxe ostentatoire, le moulin à Giverny, la villa Pamplemousse aux Antilles et un palais à Marrakech. Chacun plusieurs centaines de mètres carrés, piscine, sauna, billard, domestique, mais aussi, et ça explique les soupçons de blanchiment, des dépenses considérables en liquide. On retrouve des liasses de billets jusque dans les peignoirs de Patrick Balkany. Sa femme passe tous les vendredis à l'Intermarché de Giverny pour échanger des coupures de 500 euros. Or, il ne retire quasiment jamais d'argent. Zéro retrait, par exemple, en 2015. Il ne déclare pas d'ISF, un petit patrimoine au fisc, et encore moins à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique.
D'où vient cet argent, Salomé Lagrand ?
Il y a d'abord les dessous de table des opérations immobilières à Levallois des promoteurs qui se voient attribuer d'importants chantiers en échange de confortables commissions. Un homme d'affaires saoudien verse par exemple 5 millions d'euros en 2010 pour pouvoir construire deux tours. Mais les enquêteurs ont aussi remonté de curieuses tractations du député maire en Afrique autour de mines d'uranium, 5 millions encore versés par un intermédiaire belge.
Ça c'est pour le volet prise illégale d'intérêt et corruption, mais il y a aussi de la fraude fiscale, c'est ça ?
Et oui, parce qu'au bout de plusieurs auditions devant les juges, Isabelle puis Patrick Balkany ont expliqué que cet argent provenait en fait d'héritages planqués en Suisse, des fonds non déclarés, un aveu de fraude fiscale en guise de défense. En revanche, ils nient être les propriétaires des villas de Saint-Martin et Marrakech.
Est-ce que les enquêteurs les croient, Salomé ?
Pas du tout. Ils ont démêlé des montages financiers très sophistiqués qui passent par la Suisse, le Liechtenstein, le Panama et Singapour et relevé des détails qui ne trompent pas. Le linge brodé à leurs initiales, des achats de meubles par madame, les employés de maison qui ne prennent leurs ordres qu'auprès du couple, le nom du palais marocain Djoussi qui reprend les prénoms de leurs petites filles Julia et Lucie. De quoi convaincre les juges que les intermédiaires ne sont que des hommes de paille. D'ailleurs, le fils Balkany est également jugé, ainsi que l'homme de main de Patrick Balkany qui a juré qu'il le défendrait jusqu'au bout, mais aussi un avocat proche de Nicolas Sarkozy. Tout un système qui doit tomber, d'après Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor.
Pourquoi il reste dans le circuit ? Pourquoi est-ce que finalement il arrive à avoir des élus qui le soutiennent bec et ongles jusqu'à la fin ? Peut-être que certains ont eu intérêt à un moment donné de le laisser en place. Ce procès va mettre un petit peu en lumière nos propres insuffisances, notre incapacité finalement à nous débarrasser de ce type d'individu très vite.
Il y a 10 jours, Isabelle Balkany a été hospitalisée après avoir ingurgité des médicaments sur sa page Facebook. Elle a dénoncé une instruction exclusivement à charge. Le patrimoine dissimulé est estimé à plus de 13 millions d'euros. Patrick Balkany encourt jusqu'à 10 ans de prison.
Le procès Balkany s'ouvre aujourd'hui à Paris et vous pourrez le suivre sur europe1.fr. Merci Salomé Legrand pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
À suivre, Anissé Mbida pour l'innovation du jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne sais pas à quoi vous carburez le matin, mais je viens de lire que vous ressuscitez Salvador Dalí.
Oui, et c'est un petit peu inquiétant parce qu'on va pouvoir faire un selfie avec lui comme s'il était là, en vrai, vivant. Toujours
ça
ne
va pas mieux. Hein.
Non, bon, c'est le week-end qui ne va pas réussir.
À tout de suite.
Bon réveil avec Nicolas Aliagas sur Europe 1. Il est 7h25. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbidanitos.
Les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés parce que oui. Le musée Salvador Dali en Floride a rouvert ce week-end avec une nouveauté surréaliste. Il est possible d'échanger, écoutez bien Laurent Cabrol, avec Salvador Dali en personne. On peut discuter. Oh. Alors, oui. Ma question est très simple. Vous prenez quoi le matin à Nice ?
Du chocolat d'Hélène Zelani.
Oui, il est très bon son gâteau.
Non, non, c'est assez formidable. On a l'artiste qui accueille les visiteurs. Il dit bonjour, il dit comment allez-vous. Il raconte des histoires sur sa vie. Oui. Il va même lire le journal du jour. S'il pleut, il va vous parler du mauvais temps. Non, c'est vraiment fascinant. Fascinant.
Qu'est-ce que vous dites, Laurent ?
Il va faire mauvais.
Alors évidemment tout se passe à travers un énorme écran, mais c'est interactif puisqu'à un moment il demande même si on veut prendre une photo avec lui, et là il sort son téléphone portable, il se retourne et il fait un selfie avec vous derrière et il vous l'envoie.
Donc c'est un acteur qui joue Dali en fait.
Non, c'est pas un acteur, enfin presque. Hein. En fait ils ont utilisé des milliers d'heures de vidéos d'archives pour entraîner une intelligence artificielle à reproduire son visage sous n'importe quel angle avec n'importe quelle émotion.
C'est dingue.
Donc c'est son vrai visage mais plaqué sur le corps d'un acteur.
En fait ça fait penser un peu aux artistes décédés qui font des concerts en ce moment. Par hologramme, on l'a vu avec Maria Callas
notamment. Oui, mais là la différence c'est que c'est l'interactivité, hein. C'est pas une simple vidéo qui a été enregistrée, il y a des milliers de combinaisons possibles et c'est ce qui permet d'avoir ce fameux échange. Mais c'est aussi un petit peu inquiétant puisqu'avec cette technologie on pourrait, je sais pas moi par exemple, faire en sorte qu'un politique soit toujours vivant. Donc plus que jamais, faites attention à ce genre de technologie, il faut se méfier de ce qu'on voit.
Et oui, parce que ça peut être dangereux, on peut manipuler, on peut se moquer des gens. Hein, lui qui avait peint la persistance de la mémoire avec ses montres qui fondaient, ses montres molles. Voilà, il a été aussi avant-gardiste, même après sa mort. Merci beaucoup Anissa Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans 2 minutes, le journal de Céline Kalman, mais tout de suite, c'est la météo, Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, il fait beau aujourd'hui, et c'est le 13 mai aussi, l'anniversaire, outre le vôtre, de celui de Christine Bravo.
Oui, effectivement.
Et on l'embrasse.
Beaucoup de 13 mai, et puis l'occasion de fêter, tenez,
notre ami Dali, 24 degrés dans la gare de, à la gare de Perpignan cet après-midi, puisque c'était un monsieur qui vantait Perpignan, Collioure, toute cette région du sud de la France. C'est là qu'il fera le plus chaud ce matin, cet après-midi d'ailleurs, 24 degrés, 24 à Manosque aussi, 23 à Marseille, 22 à Nice, 21 à Toulouse, 20 degrés à Rennes et Lyon et Brest, 19 à Nantes, 18 à Paris, à Besançon, à Lens, Strasbourg, Limoges, 17 à Lille et à Reims, et 15 degrés à Caen, comme à Clermont-Ferrand et Colmar. Voilà pour les températures maximales. Ce matin, il fait un peu froid, donc il faut se couvrir. Vous dire que le soleil va rayonner en toute région et qu'il fera beau partout par définition. J'en ai terminé.
Merci beaucoup. À 7h40, à suivre, Jean-Michel Apathy, hommage national demain aux deux militaires tués dans l'opération pour libérer les otages français enlevés au Bénin. Puis à 7h45, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, sera mon invité sur Europe 1. Excellent réveil à tous.
Nous sommes le lundi 13 mai, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un chiffre ce matin, 500 personnes ont perdu la vie sur les routes lors de trajets professionnels l'année dernière. Aujourd'hui débute la semaine de la prévention des risques routiers au travail. Une enquête IFOP pour MMA qu'Europe 1 vous dévoile dresse un bilan pas franchement brillant. 8 patrons sur 10 ignorent toujours que la route est la première cause de mortalité au travail et ils sont trop peu nombreux à respecter la loi du 1er janvier 2017, celle de dénoncer ses salariés lorsqu'ils commettent des infractions. Aude Leroy.
Avant même que la loi n'entre en vigueur, Laurent Gall, à la tête d'une entreprise de transport travaux publics en Île-de-France, avait prévenu ses 90 chauffeurs. Il les dénoncerait à la moindre infraction au code de la route. Perte de 4 points pour un feu rouge ou un stop grillé, excès de vitesse, téléphone au volant, amende qui s'accumule jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Très vite, ce chef d'entreprise a vu les résultats.
C'était à partir de l'année 2018, parce que c'est là que les chauffeurs ont commencé à voir l'effet des dénonciations. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que nous on a vu une chute très forte de plus de 30% de nos infractions. Donc je pense que c'est la peur du gendarme principalement qui fait son effet. Et puis c'est globalement plus les véhicules légers que les poids lourds, 1 km/h au-dessus de la limite. C'est ça, c'est le truc classique.
Ce patron met un point d'honneur à respecter la loi, à dénoncer ses salariés et à refuser de payer leurs amendes. En revanche, même si le chiffre est en diminution, un quart des patrons aujourd'hui le font toujours parce qu'ils disent ne pas vouloir nuire à leur relation avec leurs salariés.
Aude Leroy pour Europe 1. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse sont jugés à partir d'aujourd'hui pour blanchiment et fraude fiscale. Un report du procès pourrait être décidé en raison de l'état de santé d'Isabelle Balkany, qui a récemment tenté de se suicider.
La ministre des Armées, Florence Parly, a rendu un premier hommage hier aux deux soldats d'élite tués au Burkina Faso.
Leurs corps ont été rapatriés dans la soirée. Un hommage national leur sera rendu demain dans la cour d'honneur des Invalides. Alain Bertoncello, 28 ans, et Cédric de Pierrepont, 33 ans, ont payé de leur vie pour libérer des otages qui avaient été enlevés au Bénin. Florence Charton était la compagne de Cédric de Pierrepont, évidemment dévastée. Elle se souvient du tout dernier échange qu'elle a eu avec lui.
Je l'ai eu rapidement par téléphone, juste avant qu'il parte pour la dernière mission. Ce dernier mot, c'est qu'il ne pouvait pas rester très longtemps parce qu'il était sur un départ. Et le lendemain matin, quand j'ai vu que j'avais pas de message à mon réveil, je me suis dit qu'il n'était pas encore rentré. Je pouvais pas imaginer que c'est parce qu'il était mort. Personne ne réalise, on a tous l'impression qu'il va rentrer, que c'est juste un mauvais rêve. Mais non, il ne reviendra plus jamais. C'est pas juste un métier, c'est en eux, ils vivent pour ça. Donc on peut pas les empêcher de partir. Et si c'était à refaire, je sais qu'il y serait retourné. Ce qu'on était en train de bâtir ensemble pour finir notre vie ensemble, ça pourra plus se produire. Il laisse un vide immense.
Florence Charton, compagne de Cédric de Pierrepont, interrogée par Marguerite Lefebvre. Et puis les hommages se multiplient également au Bénin après la mort du guide qui accompagnait les deux Français enlevés. Fiacre Bedji allait bientôt avoir 30 ans. Il avait 6 enfants.
Coup d'envoi de la campagne officielle des élections européennes aujourd'hui.
Et on pourra notamment découvrir les clips des différentes listes. Dans Le Figaro, Édouard Philippe affirme que les conditions sont réunies pour son maintien à Matignon. Il déclare aussi que sa relation avec le chef de l'État est très bonne, elle est fluide, fondée, dit-il, sur un très haut niveau de confiance. C'est le début ce matin à Bordeaux de Vinexpo, salon qui réunit tous les acteurs de la planète des vins et des spiritueux. Les vins de Bordeaux qui en ce moment connaissent une passe un petit peu compliquée, un recul de 13% à l'export. L'heure est à la remise en question sur le modèle de commercialisation. Stéphane Place.
Souvenez-vous, avril 2017, le gel anéantit une partie de la récolte dans le vignoble bordelais, perte globale de 40%, d'où une tension sur les prix et des parts de marché en moins. 2018, production normale, mais là, Bordeaux, qui a donc reculé, a du mal à reprendre toute sa place. Voilà pour la cause conjoncturelle qui explique cette baisse des ventes. Mais pour une partie seulement, car il n'y a pas que la conjoncture, reconnaît Christophe Château du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Les nouvelles tendances, c'est le développement du blanc sec, du rosé, des effervescents et des créments. Et Bordeaux est très marqué rouge, hein, 90% de la production de Bordeaux sont des vins rouges. Les consommateurs vont de moins en moins dans les hyper et préfèrent du commerce en circuit court. Bordeaux est très très présent en super, en hypermarché, est un leader des foires aux vins, et les foires aux vins ont été un peu à la peine l'année dernière. La Chine est de très loin le premier marché pour l'exportation pour Bordeaux. La Chine a connu un ralentissement de son dynamisme économique. En plus de ça, la Chine a signé des accords de libre-échange avec le Chili et l'Australie, et donc les vins chiliens et australiens qui rentrent en Chine ne sont plus taxés aujourd'hui, ce qui leur donne un avantage concurrentiel.
Alors la filière mise sur la qualité du 2018 pour remonter la pente, et l'interprofession travaille aussi sur une nouvelle stratégie pour davantage mettre en avant le rosé, le blanc et le crémant. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
La 31e cérémonie des Molières, c'est ce soir. 19 statuettes vont être remises. Ça se passe aux Folies Bergères, à voir aussi sur France 2. Et c'est un amoureux du théâtre qui va présider la cérémonie, l'humoriste belge Alex Vizorek.
Moi, je suis venu au cours Florent après mes études d'école de commerce pour faire du théâtre. J'ai pu en faire. Et donc maintenant, pouvoir être celui qui va accueillir tous ces gens que j'avais envie de quelque part de côtoyer, à qui donner la réplique, et ben, je suis très fier, très flatté. J'ai toujours ce regard de petit garçon qui, quand les tournées Carcinti passaient à Bruxelles, ben, j'allais voir des vedettes parisiennes jouer au théâtre des Galeries de Bruxelles. J'ai eu beaucoup de tendresse pour ce petit garçon qui était dans la salle et qui déjà aimait le théâtre.
Ouais. Alex Vizorek avec Thierry Geffrotin pour Europe 1. Cette fois, tout est fini. C'est la une de Vaucluse Matin après l'humiliante défaite de Marseille hier soir face à Lyon 3-0. Marseille qui ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis en tennis, oui. Novak Djokovic a remporté hier le Master 1000 de Madrid en battant le grec Tsitsipas.
Il reviendra, Tsitsipas. Vous ne vous inquiétez pas.
Pas du tout.
Merci beaucoup. C'était le journal de 7h30 présenté par Céline Kallmann.
Et vous continuez à nous envoyer vos réactions sur l'actualité, vos messages également pour Nikos, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il y en a énormément sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Messieurs, Axel de Tarlet et Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos.
À suivre, bonjour.
Nous évoquerons la cérémonie d'hommage qui aura lieu demain aux Invalides à la mémoire des deux soldats morts vendredi au Burkina Faso pour libérer deux otages français.
A tout de suite, Axel.
Uber qui dévisse en bourse. Uber est-il un mirage sans avenir ?
Apathy Tarlet, duo gagnant sur Europe 1, c'est dans un instant, tout de suite.
Bon réveil à tous, il est 7h36. Il est 7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Le président de la République rendra hommage demain aux Invalides, aux deux militaires qui ont trouvé la mort vendredi au Burkina Faso. Et on imagine, Jean-Michel, que la séquence sera très forte en émotion.
Oui, bien sûr, très, très émouvante. Il faut citer le nom de ces deux marins, Cédric de Pierrepont et Alain Bartoncello, qui sont morts dans l'accomplissement de leur devoir qui était aussi leur métier. Ils ont donné leur vie pour que d'autres puissent être libres, ce qui est un geste écrasant d'exemplarité, évidemment, qui va donner lieu demain à une cérémonie très émouvante, une cérémonie indispensable pour que nous prenions conscience du sacrifice que cela représente. Que dit ce geste de la société française ? Il dit que des femmes et des hommes sont toujours prêts parmi nous, à se dévouer pour défendre un idéal, une conception de la France, des droits de l'homme. Mmh. Dans ce pays qui est plutôt dépressif et depuis de nombreuses années, on s'interroge souvent sur la citoyenneté, la transmission des valeurs. Et cet exemple-là montre qu'il y a toujours, au sein de la communauté française, des gens qui veulent défendre la France et ce qu'elle représente. Et c'est important sans doute de le dire. Que dit ce geste à la société française? S'il dit quelque chose de la société française, il dit quelque chose aussi à la société française. Que l'action militaire, dans ce 21e siècle, ne peut être qu'entièrement et totalement professionnelle. Nous nous perdons souvent dans des débats périphériques, le service national, les services civiques. C'est une perte de temps, une perte d'argent. On se préoccupe de choses qui ne verront jamais le jour. Ce qu'il faut considérer, c'est que la nation doit, à ceux qui se dévouent pour elle, se doit de mettre en œuvre tous les moyens psychologiques, techniques, matériels pour que cette action militaire se fasse dans des conditions optimales. On a vu dans les années passées que les problèmes financiers du pays pouvaient être réglés en utilisant le budget de la défense comme une variable d'ajustement. Mmh. On comprend que ceci n'est pas acceptable. Il faut prendre conscience du sacrifice qu'acceptent des femmes et des hommes en France pour leur donner la sécurité matérielle dont ils ont évidemment besoin. Il y a à propos de ce drame une dernière chose à dire. Une polémique est née, parce qu'il naît des polémiques à propos de tout. Après tout, c'est le lot de la démocratie, mais ceux qui s'y livrent se perdent quelquefois dans l'indignité. Une polémique est née sur la présence du chef de l'État vendredi à Villacoublay, et puis aussi sur sa présence demain, en période électorale, aux Invalides pour rendre hommage aux deux marins morts. Il y a des gens qui, même si leur métier c'est la politique, n'ont aucune conscience de ce qu'est la nation, et on est triste pour eux. Demain, il faudra, au-delà de tout esprit polémique, vivre la cérémonie qui aura lieu aux Invalides à la mémoire de Cédric de Pierrepont et Alain Bartoncello.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Axel de Tarlé, douche froide pour le géant Uber. À peine introduit en bourse, son action a dévissé de 7%. Pourquoi ?
Oui, pour son premier jour de cotation à Wall Street, le géant des VTC Uber a en effet perdu plus de 5 milliards de dollars de valeur boursière. Alors vous me demandez pourquoi ? Bah écoutez, Wall Street, ce n'est pas la Californie. À Wall Street, vous avez des financiers qui savent compter. Et qu'est-ce qu'ils comptent ? Eh bien, ils constatent que Uber perd 1 milliard de dollars par trimestre. Que Uber n'a jamais gagné d'argent depuis qu'il existe. Et pire, Uber claironne qu'il prévoit de continuer à perdre beaucoup d'argent parce qu'il est en phase d'investissement. Bref, Uber est un gouffre. À Wall Street, vous avez également des analystes qui évaluent les modèles. Que constatent-ils ? Qu'Uber est en conflit larvé avec ses chauffeurs, donc ses forces vives. Et d'ailleurs, deux jours avant l'introduction, exprès, les chauffeurs VTC Uber se sont mis en grève pour protester et dénoncer la précarité de leurs conditions de travail. Vous voyez, ambiance dans l'entreprise. Ouais. Et puis, Uber est aussi en conflit larvé avec les autorités, les mairies, les municipalités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Uber crée des embouteillages un peu partout. De fait, avec Uber, les habitants arrête les transports en commun et se déplace dans des voitures individuelles avec des chauffeurs qui vous attendent le long des trottoirs. Évidemment, ça crée des bouchons à San Francisco, plus 62% de bouchons en 6 ans. Donc, on se résume, Uber, ce sont des pertes, des grèves et des bouchons. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour investir dans Uber.
Ah là, vous avez enterré l'entreprise. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, Axel de Tarlé ? Uber n'a pas d'avenir, que ça va mal se terminer ?
Alors, pas forcément. Uber travaille à des solutions là, avec la voiture propre, la voiture autonome, sans chauffeur, vous savez, qui circule toute seule. Ouais. Voilà. Et puis, Uber étend son offre. Maintenant, il livre des repas. Et puis, tout ça finira peut-être par payer. En fait, Uber est un pari. Et c'est d'ailleurs tout le mérite de ces financiers de Wall Street qui sont capables de prendre des paris, d'accompagner des entreprises pendant des années, même si elles perdent de l'argent. Au fond, c'est l'histoire d'Amazon, c'est l'histoire de Tesla. Alors c'est sûr, en Europe, chez nous, Uber et Tesla auraient fait faillite depuis bien longtemps. Aucun banquier ne les aurait suivis. Mais c'est ça la magie de l'Amérique. C'est le pays des possibles qui parfois réussissent. Regardez Amazon qui a perdu des milliards et des milliards pendant des années. Et Amazon qui est devenue ensuite la première entreprise du monde.
Axel de Tarlé pour le Zoom Echo, tous les jours sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, direction la Croisette pour fouler le tapis rouge. Le Festival de Cannes commence demain. Dans une minute, je reçois son président, M. Pierre Lescure. Tout de suite.
Bon réveil sur Europe 1, il est 7h44. Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Les époux Balkany devant la justice, ils vont être jugés à partir d'aujourd'hui pour blanchiment et fraude fiscale, un procès qui doit durer 6 semaines. Un hommage national sera rendu demain aux deux militaires tués au Burkina Faso, Cédric de Pierrepont et Alain Bartoncello. Ils ont payé de leur vie pour sauver celle de deux otages français. Un cortège traversera le pont Alexandre III, puis il y aura une cérémonie solennelle dans les cours des Invalides. Il fête ses 2 ans à Matignon et se voit bien rempilé encore un peu dans une interview au Figaro ce matin. Le Premier ministre déclare que les conditions sont pleinement réunies pour qu'il reste Premier ministre. Football, cette fois, c'est bel et bien fini. Plus aucun espoir européen pour l'Olympique de Marseille qui a été laminé par Lyon. Ça s'est passé hier soir au stade Vélodrome, 3-0.
Europe 1.
Nikos Aliagas, à l'occasion de l'ouverture du 72e Festival de Cannes qui démarre demain, vous recevez ce matin son président Pierre Lescure en duplex de Cannes.
Bonjour Pierre Lescure.
Bonjour Nikos.
Il fait beau ce matin à Cannes ?
Ah, c'est plus que beau, c'est le plus beau matin du monde. C'est très très beau sur la...
Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit à la veille du coup d'envoi ?
On serait difficilement dans un meilleur état d'esprit, Nikos, parce que vous l'avez noté, d'abord il fait beau, ensuite c'est toujours excitant de démarrer une nouvelle édition, et puis la sélection de Thierry Frémaux pour le Certain Regard, comme la sélection officielle, a été tellement bien accueillie, éblouissante, on dit les Inrocks, réconciliant tout le monde, a dit le Figaro, que demande le peuple ? Le peuple est content sur la croisette.
Bonne revue de presse. Pierre Lescure, est-ce que le Festival de Cannes fait encore rêver ? L'année dernière, on parlait de la concurrence avec Venise. Mais est-ce que aujourd'hui, vous avez tous les ingrédients pour relancer la machine ? Si la machine s'est arrêtée d'une certaine façon.
D'abord, je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée. Le Festival de Cannes reste le plus grand festival du monde. C'est pas demain qu'il y aura une remontada, pas plus de Venise que de Berlin. Et il faut toujours qu'il y ait un bon cru pour que les sélectionneurs, Thierry en tête, Thierry Frémaux, puissent bien travailler. Cette année, le cru est exceptionnel. On va d'un premier film de l'Adjili à Almodovar. Tout le monde attend un très grand Almodovar, mais aussi un très grand premier film. Il y a le Tarantino, il y a le Kechiche, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des Français, ça vient de quatre continents. Donc on sent quelque chose qui est très exubérant, très riche, très créatif. Donc, si vous voulez, je vous écoutais depuis tôt ce matin. C'est le contraire d'Hubert, le Festival de Cannes. Il n'y aura jamais de film sans chauffeur et sans réalisateur. Il n'y aura jamais de montée des marches avec simplement sans vedettes.
Donc
les vedettes vont être
fait.
Très nombreuses. Mais bien sûr, c'est ce que vous aimez aussi. On aime à la fois le glamour, on aime les nouveaux venus, on aime la créativité. Dans le jury, tout à l'heure, on va les recevoir avec Thierry, ce sera leur rencontre. Autour d'Inaritu, vous avez Elle Fanning, qui a 22 ans, qui est une star extraordinaire, qui était venue à Cannes la première fois, elle était toute gamine, pour Babel en 2006. Mais vous avez de très grands réalisateurs, vous avez Robin Campillo, qui avait triomphé à Cannes avec 120 battements. Tout est là, toute la palette est là. Franchement, ça va être une superbe édition. Je ne dis pas ça pour engagez-vous. Franchement, c'est bien.
Il y a aussi un film qui est très attendu, Pierre Lescure. C'est la suite d'Un homme et une femme, intitulé Les plus belles années d'une vie, de Claude Lelouch. À l'époque, le film avait remporté de nombreux prix, dont une palme d'or. Vous l'avez vu, le nouveau ? Ça vous fait quoi d'imaginer que dans quelques heures, il y aura sur le tapis Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 50 ans plus tard ? C'est une belle image ?
C'est une belle image pour moi qui ne suis pas tout jeune, et pour les plus jeunes, c'est une parabole qui intéresse et qui leur rappelle leur famille, leurs amis. C'est l'histoire d'une vie, comme dit Claude. Mmh. Et comme il est d'une habileté, d'une créativité phénoménale à son âge et 50 ans après, vous allez avoir à la fois aujourd'hui Jean-Louis et Anouk, vous avez toute l'histoire d'une vie, mais vous avez aussi des images d'il y a 50 ans. Il a fait un film absolument de cinéma, mais où cet homme a 25 ans. Et vous allez voir la magie de sa caméra. Il n'a pas bougé sur la créativité.
Pierre Lescure, une nouvelle fois, il n'y aura pas de film Netflix. L'an dernier, le festival n'a pas fait venir Roma, et vous avez vu qu'il a été multiprimé dans le monde entier. C'est quoi l'histoire du Festival de Cannes et Netflix ?
C'est une petite histoire, mais qui va continuer. Je dis que c'est une petite histoire parce que, par exemple, cette année, il n'y a pas de film Netflix qui ait vraiment défrayé la chronique et qu'on n'aurait pas eu. L'histoire de Roma, c'est un film extraordinaire d'Alfonso Cuarón. C'est un film que beaucoup de gens qui l'ont aimé sur Netflix auraient voulu voir aussi sur grand écran. Ce noir et blanc magnifique d'Alfonso Cuarón, on avait envie de le voir dans un cinéma. Netflix est la première des plateformes. D'ici la fin de l'année, il y aura 4-5 plateformes qui vont se faire concurrence,
Amazon,
entre
Google,
celle d'Amazon,
Disney,
celle
oui.
d'Apple, et puis la plateforme de Disney qui va être l'événement majeur d'ici la fin de l'année. Disney est une société qui connaît très bien la France, qui travaille très très bien avec la France, au-delà d'Euro Disney, qui a toujours protégé les salles, protégé ses films. Je pense que le géant Disney va faire beaucoup pour que se rapprochent les points de vue de ceux qui défendent la salle. Nous en sommes, et nous sommes au premier rang, nous au Festival de Cannes, et en même temps, ceux qui savent que les plateformes, c'est une modernité de consommation pour tous les films qu'on n'a pas le temps d'aller voir en salle. Donc je pense que l'arrivée de Disney va faire que les points de vue vont se rapprocher et d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de sujet de plateforme. Tout le monde vivra ensemble. C'est la loi du marché et surtout du désir des téléspectateurs et de ceux qui aiment aller en salle.
Donc un jour, un film qui ne sort pas au cinéma pourra être présenté au Festival de Cannes ?
Aussi raide que vous le dites, non. Parce qu'il y aura toujours une sorte... Non, exactement. Ouais. Quand je dis votre désir, Nikos, il y a des films que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie d'aller voir en salle. Mm-hmm. En revanche, il y a des films, vous n'imaginez pas de ne les voir que sur le petit écran. Donc il faut nous donner la possibilité des deux. C'est ça aussi les joies du digital et des nouveaux modes de consommation. Je veux maintenant, où je peux, où je veux, ce que j'ai envie de voir.
C'est au choix. Vous allez remettre une palme d'or d'honneur à Alain Delon ?
Avec, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal du dimanche hier, l'affiche spéciale. Elle est magnifique. Il a tombé, cet homme. Bah, c'est à la fois ce personnage mythique et puis cet immense comédien qui a fait beaucoup pour le cinéma avec un monsieur Klein qu'il avait produit et où il a excellé. Et puis Le Guépard, et puis tous les films avec Gabin, avec les autres, les films de Melville. C'est tout cet immense comédien qui va être célébré avec une palme d'or d'honneur.
C'est un peu ce que c'est aussi le Festival de Cannes. Un mythe avec des archétypes, des choses et des moments qui ont fait rêver. Et la réalité, l'industrie du film, les rencontres et le 21e siècle. Votre journée type, ça va être quoi, Pierre Lescure ? Dernière question ?
Alors, dès le matin à 9h, moi j'ai une réunion de sécurité, parce que c'est aussi l'air du temps. Mm-hmm. Donc autour du préfet des Alpes-Maritimes et du maire de Cannes, David Lisnard, on se réunit, on doit être une bonne quarantaine, et on fait tout pour que, et ça se passe bien depuis 3-4 ans, parce que tout le monde travaille extrêmement sérieusement, on fait tout pour que à la fois la vie soit paisible et en même temps sécurisée partout, à Cannes comme tout autour. Et puis ensuite, on reçoit de tous ceux qui viennent à Cannes, qui viennent célébrer le cinéma et en profiter, des professionnels, des amis, des gens venus de tous horizons, de tous les continents. C'est toute la journée jusqu'au moment où vers 18h30, mon bureau devient un dressing room. Je me mets en smoking, et ça le fait rire. Ça fait rire. J'enfile mes bretelles, ma belle ceinture de smoking, et puis avec Thierry Frémaux, on accueille tout le monde en haut des marches. Et c'est toujours un vrai plaisir de voir l'œil ravi des petits, des grands, des jeunes et des moins jeunes montant les marches, arrivant enfin dans la salle lumière pour une projection sur un des plus beaux écrans du monde.
Dans votre smoking de président de la 72e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre demain. On vous souhaite un bon cru. Merci Pierre Lescure d'avoir été avec nous en direct de la Croisette ce matin sur Europe 1.
Et merci aussi à Frédéric Michet, notre correspondant sur place qui a permis cette interview depuis Cannes. On suivra évidemment l'événement chaque jour sur Europe 1. Nikos avec le journal du Festival de Cannes tous les matins à 8h35.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, le procès Balkany, le maire de Levallois et son épouse sont jugés pour fraude fiscale et corruption. Informations et témoignages exclusifs dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous emmenez où ?
Chut, c'est un secret.
Oh. Bon, ok, à tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, 7h54. Et les 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
J'ai pas l'histoire sur mon papier, Jean-Philippe Ballas. Vous nous parlez de quoi ce matin ? Bonjour.
Bah forcément, vous savez pas bonjour. C'est une surprise, Nikos, pour votre anniversaire. Ah. J'ai fouillé dans votre discothèque tout le week-end. Merci, petite playlist, contente. Cadeau, rien que pour vous. I shot the sheriff. Allez, valeur sûre pour commencer, Eric Clapton, c'est facile. On reste à la lettre C, toujours dans la discothèque de Nikos. On change d'ambiance, c'est comme Cohen, Leonard Cohen, Suzanne. And she feeds you
tea and oranges. Le meilleur.
Il a un goût sûr, Nikos. Alors évidemment, il y a aussi du français dans sa discothèque. Un album notamment, 98, Fantaisie militaire, Alain Bachung.
La nuit, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains.
Bon, forcément, on a aussi des crooners. Hein, on est chez Nikos. Allez, monsieur Francky, c'est à vous.
Regrets. Magnifique. I've had a few.
But then again. Il chantonne un peu, Nikos.
Oh non.
Si, il chantonne. On a une petite rareté pour vous, les amis. Montez le son. Nikos qui chante. Ain't no sunshine when she's gone. Yeah. It's no warm when she's away. Nikos Aliagas qui chante Ain't No Sunshine.
Je ferais bien une matinale de rock'n'roll ce matin.
Voilà,
c'était en Grèce quand j'étais jeune.
On vous dit bon anniversaire.
Merci
patron,
pour ce cadeau.
Je lève mon micro aux 50 prochaines années. Puis vous savez quoi, on a aussi Nina Simone qui a un petit message pour vous. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
me, and I'm feeling good. Oh, oh.
Je partage donc ce 13 mai. Merci mon cher Jean-Philippe Ballas, avec Laurent Cabrol, avec Christine Bravo. Et à la mémoire aussi de Grégory Le Marchal, qui était né un 13 mai.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite, justement, on le retrouve, Laurent Cabrol, pour la météo.
Et avec des températures qui sont...
ensoleillées.
Ouais, et des températures qui sont peut-être pas dignes d'un anniversaire, mais un ciel qui est digne d'un anniversaire, puisque nous allons avoir du soleil pour nous tous, chers amis, où que vous soyez, avec malheureusement un petit peu de vent. Ce sont des vents de nord-est qui souffleront autour de 50 à 70 km/h. C'est un peu l'ombre au tableau, mais enfin, franchement, on ne va pas se plaindre. Sous abri, nous aurons du 15 degrés à Caen, du 17 à Lille et Paris, du 18 à Besançon, Lens, Strasbourg, Limoges, 19 à Nantes, 20 degrés à Lyon, 21 à Toulouse, 22 à Nice, 23 à Marseille, 24 à Manosque et 24 degrés également à Perpignan. Ce matin, il ne fait pas chaud, alors couvrez-vous. Demain, ce sera une journée également très ensoleillée avec toujours du vent. Mardi, mercredi d'ailleurs, jeudi également, ce ne sera pas trop mauvais. Mais à partir de vendredi, sur les régions du sud, ça va se gâter. Puis ensuite, sur l'ensemble de la France, malheureusement, le congé de fin de semaine ne s'annonce pas de la même veine que cette première partie de semaine.
Alors on va en profiter tant que ça dure. Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci à vous de nous avoir choisis en ce lundi 13 mai. Très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Aux commandes, comme tous les jours du lundi au vendredi, David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
C'est le procès de toute une époque. Les époux Balkany sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. On les accuse d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. L'hommage aux deux soldats tués en opération lors de la libération des otages français. Ce sera demain aux Invalides. L'Élysée prépare minutieusement la cérémonie. Et puis après l'affaire du fichage Monsanto, les excuses de Bayer. C'est la panique au sommet du groupe agrochimique allemand. La correspondance de notre journaliste à Berlin dans ce journal.
8h12, cette question de Vincent Herouet. Les deux otages français ont-ils pris un risque inconscient? On écoutera son analyse. À 8h15, il est à la tête de l'une des 34 listes pour les européennes. Audrey Crespo-Mara reçoit le fondateur de Génération S, Benoît Hamon.
Europe 1.
L'heure des comptes a-t-elle sonné? Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Le maire et la première adjointe de Levallois sont notamment accusés de fraude fiscale. On leur reproche d'avoir dissimulé 13 millions d'euros. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Plus globalement, Salomé, la justice les accuse de s'être enrichis illégalement.
Absolument, pour Patrick Balkany, grâce à de la corruption et des prises illégales d'intérêts, c'est-à-dire en se faisant payer de confortables dessous de table par de gros promoteurs immobiliers en échange de l'attribution de marchés publics à Levallois. Les juges ont remonté ces pratiques depuis le milieu des années 1980, mais c'est prescrit. Et jusqu'en 2010, où un homme d'affaires saoudien a versé 5 millions d'euros en espérant construire deux tours jumelles en front de Seine. Il y a aussi des fonds liés à de curieuses activités du député maire en Afrique durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais les enquêteurs ont surtout démêlé un incroyable écheveau de sociétés offshore avec des montages passant par le Panama, le Liechtenstein, la Suisse et Singapour, avec des noms de proches pour faire écran. Les époux ont fini par avouer une petite part de fraude fiscale en parlant d'héritage en Suisse non déclaré. Mais d'après les juges, rien de comparable à leur invraisemblable train de vie assuré quasi uniquement en argent liquide.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, merci à vous Salomé. Alors si les époux Balkany sont jugés, c'est le fait d'un homme. Il s'est confié à vous, Salomé. Didier Schuller, l'ancien directeur général des HLM des Hauts-de-Seine, a décidé de dénoncer en 2013 l'existence de ce patrimoine présumé caché. On l'écoute.
Pendant plus de 20 ans, j'ai, pour parler d'une manière un peu abrupte, fermé ma gueule. À partir de 2013, j'ai effectivement eu le comportement, entre guillemets, d'un repenti, c'est-à-dire que, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. J'ai pu m'apercevoir que ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel.
Didier Schuller, l'homme qui va peut-être donc faire tomber les époux Balkany. Et soyons tout à fait complets, il y a une incertitude sur la présence d'Isabelle Balkany sur le banc des accusés en raison de son état de santé. Isabelle Balkany, je vous le rappelle, a tenté de se suicider le 1er mai dernier. Ces jours ne sont heureusement pas en danger.
Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, les deux soldats tués lors de l'opération de libération des otages au Burkina Faso.
Oui, des héros, mais aussi des hommes avec des familles. Écoutez le témoignage du père d'Alain Berton-Cello. Il y a bien sûr un immense chagrin, mais aussi un sentiment de fierté.
Mon fils, il a fait son job, quoi. Ouais, il a réussi sa mission. Bah, s'il peut servir à donner des exemples, bah, tant mieux. Il se trouve que ma femme et moi, on est tous les deux enseignants. On a le témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui nous a dit « J'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix. Elle veut intégrer l'armée. » En ce sens, oui, c'est important. Ça fait partie de la vie du militaire. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Élysées, pour lui, c'était un honneur. Donc aujourd'hui, ça sera un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier, quoi ? Je veux dire, on vient de perdre son fils, si en plus... Si on n'est pas fier, ça serait quand même... Je ne comprendrais pas, quoi. Enfin, moi, je suis fier de mon fils.
La dignité de Jean-Luc Bertoncello, le père de l'un des militaires tombés en opération, était avec Rémi Pierre pour Europe 1. Alors ce papa, les familles des deux soldats seront demain aux Invalides, hommage national, présidé par Emmanuel Macron. Comment se déroulera la cérémonie, Virginie Riva?
Le cortège funéraire traversera le pont Alexandre III, où les Français sont invités à venir nombreux saluer la mémoire de ces deux militaires, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts durant l'opération de libération des otages. Puis, leurs dépouilles seront déposées dans la cour des Invalides pour une cérémonie solennelle qui sera empreinte de l'émotion du décès de ces deux militaires. Elle sera dans l'esprit de l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame, indique l'Élysée. Seront présents les membres du commando Hubert, dont étaient issus les deux militaires. Le casse-tête pour l'Élysée, c'est de protéger l'identité de ces soldats. Il ne faut pas que l'on puisse voir leur visage pour ne pas les mettre en danger. La presse pourrait donc être tenue à l'écart pour protéger les soldats de cette unité d'élite. La cérémonie sera le point d'orgue de cette opération qu'Emmanuel Macron a lui-même ordonnée jeudi soir. Ce sont les mots de l'Élysée. Cette décision de rendre un hommage national aux deux militaires va de pair avec celle d'avoir accueilli les deux otages libérés samedi soir, explique l'entourage du président. En tant que chef des armées, c'est lui qui a donné l'ordre pour cette opération. Il veut donc aller jusqu'au bout.
Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Et j'ajoute que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose que des écoles portent le nom des deux militaires tués. Information Europe 1, signé Guillaume Bier. Le RAID est intervenu tôt ce matin à Évry dans l'Essonne. L'un des résidents d'un foyer de travailleurs immigrés avait ouvert le feu sur ses voisins de chambre, faisant deux blessés graves. L'auteur a ensuite mis fin à ses jours. Les policiers d'élite viennent de le retrouver sans vie.
Le 52e congrès de la CGT commence aujourd'hui à Dijon.
Oui, alors pas de suspense, Philippe Martinez sera reconduit à la tête de la Confédération, mais il devra faire face à l'expression d'une contestation. La CGT n'est pas en forme, le syndicat n'en finit plus de perdre du terrain. Olivier Samin.
Il y a eu le choc du mois de décembre dernier. La CGT supplantée par la CFDT, devenue premier syndicat de France, privé et public confondu. Il y a eu parallèlement d'autres secousses, moins visibles mais tout aussi emblématiques, dans ce qui a longtemps été ses bastions. EDF, où elle n'est désormais plus majoritaire. La RATP, où elle est devancée par l'UNSA. Air France, où elle n'est même plus autour de la table. Pour l'historien du syndicalisme Stéphane Sirot, cette érosion illustre la difficulté pour la CGT à répondre aux attentes d'un monde du travail qui change.
Son discours vis-à-vis des catégories socio-professionnelles arrivant sur le marché du travail, à savoir des jeunes souvent plus qualifiés, et puis le salariat ubérisé, les auto-entrepreneurs que la CGT aujourd'hui a du mal à rencontrer parce que la culture qui est la sienne est une culture syndicale largement éloignée des réalités du salariat tel qu'il est aujourd'hui.
Philippe Martinez est le premier à le reconnaître. Les structures de la CGT ne sont plus adaptées au monde du travail. Il y a quelques jours, devant les journalistes sociaux, il s'est même dit très inquiet pour son organisation. Les gilets jaunes qui agrègent des femmes, des retraités, des salariés de PME, des précaires. Les gilets jaunes, dit-il, sont le reflet de nos déserts syndicaux.
Olivier Samin, du service économie d'Europe 1. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne officielle des élections européennes du 26 mai avec affichage et spot télévisé. Le résultat du scrutin reste toujours aussi incertain. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude. En tout, 34 listes concourent à cette élection.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, le groupe Bayer qui présente ses excuses après l'affaire du fichage Monsanto. On vous accompagne jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nicolas Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et l'affaire du fichage Monsanto et l'embarras du groupe Bayer, David.
Oui, des centaines de personnalités, journalistes, politiques, fichées en fonction de leur position sur les OGM ou le glyphosate, cela fait désordre et surtout c'est même illégal. Le groupe allemand Bayer, qui détient Monsanto, a présenté hier ses excuses. Correspondance à Berlin, Hélène Kohl.
Deux communiqués en un week-end, le groupe agrochimicalement cherche à tout prix à circonscrire l'incendie avant l'ouverture de la bourse de Francfort tout à l'heure. Surtout que l'action Bayer a déjà perdu 40% de sa valeur depuis le rachat très contesté de Monsanto l'année dernière. Cette acquisition a embourbé Bayer dans le scandale du glyphosate. L'entreprise risque des procès en cascade aux États-Unis. L'affaire des fichages secrets fragilise encore davantage le groupe, basé à Leverkusen dans la Ruhr. Alors dans ses communiqués, on sent toute la fébrilité qui s'est emparée de Bayer. Après avoir dans un premier temps nié avoir eu connaissance de ce fichier, maintenant la direction veut coopérer avec les autorités judiciaires. Mais pour le moment, le groupe affirme ne pas avoir d'éléments montrant que ces listes établies pour le compte de Monsanto ont enfreint la loi. Ils jouent la carte de la transparence, mais ici en Allemagne, où la population est extrêmement sensible aux questions de stockage des données personnelles, une affaire comme celle-ci pourrait mettre à genoux le groupe, pilier de l'économie allemande depuis plus de 150 ans. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Cinéma, la 31e cérémonie des Molières. Théâtre, alors, je pensais à Cannes, j'étais déjà à Cannes. On va parler des Molières ce soir aux Folies Bergères à Paris. C'est la 31e cérémonie, cher David Doucan.
Oui, la grande soirée du théâtre. Mais cette année, les femmes à l'honneur, en particulier dans le domaine du rire. Quatre personnalités sont nommées dans la catégorie humour. Toutes des femmes. Blanche Gardin, Florence Foresti, Caroline Vigneault et Michel Bernier. Alors, comment expliquer cette domination, Diane Genouda?
Elle était la seule femme l'an dernier, Blanche Gardin, et c'est elle qui l'emportait.
Non mais voilà, je le savais, c'était sûr. Bon, attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Mais ça c'est tout moi, ça c'est l'histoire de ma vie. Quoi. Le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. C'est vraiment ça.
Il y a du progrès puisqu'elles sont donc quatre femmes cette année à l'humour incisif et cash, à l'image de Caroline Vigneault.
Oui, jusqu'en 1924, le bac est réservé aux hommes. Alors c'est vrai que nous, on avait un petit examen pour notre sexe, hein, une sorte de petit bacounet. Je crois que c'était arrangement floral à l'écrit. Et comment faire plaisir à ton mari ? À l'oral, bien sûr.
Elles sont brillantes et piquantes, femmes libérées qui parlent de sexe, de leur intimité sans complexe. Mais elles le font avec tellement de brio que ça passe. Donc ici quatre styles, mais toutes des femmes puissantes qui balayent tout sur leur passage.
Diane Genouda du service culture Europe 1. Dernier mot de football, la descente aux enfers de l'Olympique de Marseille est terminée. Le club n'a plus aucune chance d'accéder à une compétition européenne la saison prochaine, conséquence de sa défaite hier soir au stade Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais, 3-0.
C'était le journal de 8 heures présenté par David Doucan. Merci David.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale à présent avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour à tous.
Alors la prise d'otage de Bénin dont on parle beaucoup ce matin et son dénouement avec la mort des deux commandos marines crée une polémique sur les risques pris par les touristes, et notamment touristes français.
Oui, le monde n'est pas un parc d'attractions, il sera toujours dangereux. Et ça fait longtemps que les touristes savent qu'on ne bronze pas impunément n'importe où, qu'il y a des pays comme des étoiles dans la galaxie du tourisme de masse qui passent soudain à l'ombre et deviennent terra incognita. Le Sri Lanka, par exemple, il y a 40 ans, c'était une destination vedette, et puis les attentats des séparatistes tamouls ont vidé le paradis. Comme au Liban, comme à Chypre, comme au Cambodge. Il y a 30 ans, autour de la Sierra Leone, d'Haïti, de la Colombie, il y a 20 ans, les seuls clients à Dubrovnik étaient les professionnels du désastre, militaires, humanitaires, reporters. Et puis, la cavalcade s'accélère depuis 10 ans. L'Égypte, le Mexique, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Kenya ont été rattrapés par cette violence qui fait fuir les voyageurs. Le tourisme et le terrorisme sont deux visages de la mondialisation. Les poseurs de bombes sont aimantés par les halls d'hôtels, les aéroports, les restaurants de plage. Alors au Sahel, les touristes ont déserté et les deux Français kidnappés au parc de la Panjari sont des attardés, des vacanciers attardés. Au Sahel, c'est comme ça. Mais ils voulaient un safari, d'ailleurs ils l'ont eu, ils étaient le gibier. On peut leur reprocher leur insouciance. Mais ne pas oublier qu'ils ont été enlevés parce qu'ils sont Français. C'est parce que le chef de l'État islamique Ali Baghdadi, Ali vient d'ordonner à son représentant au Sahara d'intensifier ses attaques contre la France, que ces deux hommes étaient une cible prioritaire.
En fait, on leur reproche d'avoir négligé les fameux conseils aux voyageurs du Quai d'Orsay.
Oui, mais les diplomates déconseillent toute l'Afrique, sauf le Maroc. Ils ont colorié la moitié du continent rouge vif, formellement déconseillé. Le reste en pays déconseillé, sauf raison impérative ou en vigilance renforcée. Comme ça, en cas de malheur, on ne peut rien reprocher aux fonctionnaires. Mmh. Partout, les Français sont sous la menace. Alors, le premier paradoxe, c'est que les soldats français sont en première ligne en Afrique, alors qu'à l'arrière, les civils se replient. On ne voit plus que les paras, car bientôt, il n'y aura plus qu'eux. C'est l'arbre qui cache la forêt abattue. Mmh. Deuxième paradoxe, on ignore combien de millions de personnes d'origine africaine vivent en France. Les statistiques ethniques sont interdites, mais on sait précisément le nombre d'expatriés en Afrique. Il en reste 125 000, en comptant les binationaux. Et c'est le comble. Les Français se replient au moment où l'Afrique se réveille. Les Chinois, les Turcs, les Marocains et nos voisins européens voyagent, investissent et nous remplacent.
Vincent Hervouet pour l'édito international sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité ce matin?
Bonjour, Bonjour Nico, c'est bon anniversaire.
Merci,
à vous.
Cher ami.
Mon invité, c'est ma maman, dont c'est l'anniversaire aussi.
Ah bon, on l'embrasse, maman. On l'embrasse fort, vous êtes fière de votre fille.
Bon, à deux semaines de l'élection, nous lançons notre série européenne. Aujourd'hui, nous recevons la tête d'une des six listes de gauche à seulement 2,5% dans un dernier sondage. Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération, sera mon invité.
Elle s'appelle comment, maman?
Nicole.
Elle se présente aux européennes?
Écoutez, je voterai pour elle.
A tout de suite avec Benoît Hamon.
Bon réveil avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 8h16. Il est 8h18, Nico Saliaga.
Et ce matin, André Crespo-Mara, votre invité, Benoît Hamon, tête de liste, le printemps européen pour les élections européennes.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour André Crespo-Mara.
Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'aller accueillir les deux touristes libérés par les forces spéciales françaises?
Écoutez, il l'a ressenti comme cela, il a pris une décision, c'est lui qui a décidé d'engager la force armée pour libérer ses otages. Il assume, et moi j'ai pas envie d'entrer dans une polémique avec le président de la République sur cette question.
Certains, effectivement, dans l'opposition contestent le droit à ces deux touristes d'avoir un accueil présidentiel.
Oui, j'ai vu ça, mais je pense que voilà, il y a un moment quand deux de nos soldats font le sacrifice ultime de leur vie, le respect minimum qu'on leur doit, c'est de s'abstenir de lancer des polémiques. L'hommage national n'a même pas eu lieu, il aura lieu demain. Depuis quelques jours, il y a une polémique autour des conditions dans lesquelles ces deux personnes sont parties en voyage de noces, je crois. Moi, je vous le dis, je ressens aujourd'hui comme indésirable la polémique quand deux hommes, par un sens du dévouement qui inspire le plus grand respect, ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour sauver deux autres de nos compatriotes.
Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a dit que les deux touristes s'étaient aventurés dans une zone rouge, c'est-à-dire formellement déconseillés, alors que ce n'était pas le cas au moment de l'enlèvement. Y voyez-vous une tentative de masquer la responsabilité du Quai d'Orsay ?
J'y vois beaucoup un peu d'amateurisme de la part du ministre des Affaires étrangères, incontestablement, mais je le redis.
Vous y allez plus fort
que
sur Jean-Yves Le Drian que sur Emmanuel Macron.
En tout cas, il s'est trompé, incontestablement. Donc, d'habitude, il est plutôt avare de ses paroles. Donc, je trouve que il a parlé trop vite, manifestement.
Ceci étant, les deux touristes étaient tout de même dans une zone orange, c'est-à-dire déconseillés sauf raison impérative. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'engager la vie des soldats français pour aller les sauver?
Écoutez, je crois que l'idée selon laquelle un seul de nos compatriotes pourrait se dire « moi je n'ai pas le droit finalement à la mobilisation de la nation pour me sauver », ce serait curieux, au nom de quoi choisirait-on qui on doit sauver ou pas? Je crois que chaque Français, évidemment, même s'il doit être responsabilisé en ses choix personnels, mais on ne doit pas laisser un seul Français sans la tentative, en tout cas, de la nation de le sauver quand sa vie est en danger. Je crois qu'on ne doit pas commencer à négocier ce principe-là.
Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian était un pilier du gouvernement sous Emmanuel Macron. Avant cela, il était un pilier du gouvernement sous François Hollande. Vous étiez donc à la même table lors des conseils des ministres. Vous entendiez bien à l'époque ?
n'était pas sur les mêmes domaines. Non, mais il était ministre de la Défense et il vendait des avions.
Des rafales, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est ça. Oui.
Selon Jean-Yves Le Drian, si le Parti Socialiste est au plus bas dans les sondages, c'est notamment à cause de l'échec de votre candidature à la présidentielle. Assumez-vous cette lourde responsabilité ?
Évidemment que la responsabilité, elle est collective. Comment pourrais-je m'arracher à ma propre responsabilité ? Mais ce qui est marrant de la part d'un homme qui a trahi, Jean-Yves Le Drian, comme quelques autres, qui a trahi, un parti, des valeurs, des idées.
En rejoignant Emmanuel Macron.
Bah oui, qui aujourd'hui défend des textes sur le travail, des textes économiques, des textes qui appauvrissent les pauvres, des textes qui fragilisent les plus vulnérables. Cet homme-là a trahi. C'est difficile pour lui, j'imagine, de devoir reconnaître cela. Évidemment, il faut des coupables ailleurs.
Et, ça parce que vous avez fait à l'époque le plus mauvais score de l'histoire du Parti Socialiste.
Oui, mais moi j'assume d'avoir défendu le revenu universel d'existence.
Quelles leçons
justement, une vision du monde qui voulait changer le rapport au travail, qui renouait avec les principes selon lesquels la gauche s'intéresse à la question du contenu du travail, à la manière dont on est payé, on est rémunéré. J'assume cela. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas dû ouvrir un seul livre sur les questions sociales et les questions du travail, Jean-Yves Le Drian.
Et vous, quelle leçon personnelle vous avez tirée de cet échec ?
Celle de la nécessité de s'engager et de continuer l'engagement comme je le fais aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que l'élection européenne nous est volée par Emmanuel Macron qui décide d'un match Front National contre La République En Marche, là où pendant 5 ans, on va prendre des décisions fondamentales pour les citoyens européens et on a des partis, le parti présidentiel comme le parti Marine Le Pen, qui vont à cette élection isolés sur la scène européenne d'une part, mais avec des programmes franco-français. Jugez-vous normal qu'à l'occasion de cette élection, on ne parle pas fondamentalement de ce qui va se passer pendant 5 ans ? C'est ça qui me déçoit profondément. Et moi, je continue à me battre avec honnêteté, sincérité, pour les idées auxquelles je crois. Et c'est pour ça que, depuis maintenant 1 an, j'ai travaillé avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, à un programme européen. On a travaillé, on a mis 43 pages de propositions. Nos propositions sont les mêmes en Pologne, au Portugal, en Espagne ou en France. On n'aura pas besoin d'européaniser notre petit programme franco-français comme les autres. Cette exigence-là, je trouve qu'elle n'est pas respectée par la manière dont le président de la République aujourd'hui a engagé ses forces dans la bataille en nationalisant ce scrutin. On ne parle pas en fait d'Europe à l'occasion de ces élections européennes.
Au sujet de ce duel qui vous agace manifestement, Marine Le Pen dit qu'Emmanuel Macron devra partir si sa liste est battue par le Rassemblement National et Européenne. Êtes-vous d'accord avec ça ? Et Emmanuel Macron, lui, dit « nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement National en tête ».
Hors sujet l'autre, d'abord parce que ce n'est pas une élection pour destituer Emmanuel Macron, qui ne s'en ira pas, et de la part d'Emmanuel Macron, il nous a déjà fait le coup. Il nous a déjà dit « ce sera moi ou le chaos et le désordre ». Bon, on a Emmanuel Macron, le désordre et le chaos, et en plus, on n'a pas eu l'honneur et la dignité sur la question des migrants. Et ça me touche, moi, comme citoyen, comme beaucoup d'autres, qui étaient, parlons simplement, des femmes et des hommes qui avaient des conditions modestes, qui savaient qu'en votant Emmanuel Macron au second tour, ils auraient sans doute une situation qui se dégraderait, ils l'ont quand même fait pour s'éviter Marine Le Pen. Ont-ils évité des politiques proches de Marine Le Pen ? Quand on stigmatise les médecins humanitaires comme des complices des passeurs, quand on ferme le port de Marseille à l'Aquarius, qui est un déni de la solidarité la plus élémentaire à l'égard des personnes en danger, quand on met en cause la liberté de manifester, on a aujourd'hui des textes qui sont directement inspirés par la pression des nationalistes et de Madame Le Pen. Donc
quand
on a Emmanuel Macron et le désordre aujourd'hui.
Quand on demande aux Français quel est le thème qui va vraiment compter au moment de voter, l'immigration arrive en tête. Avez-vous des propositions concrètes pour limiter l'immigration ?
Vous voulez, en tout cas, on est tous à se
dire comment on ferme
les frontières. D'abord, les frontières, elles sont fermées déjà. On sous-traite à la Turquie, quelle honte, qui a désormais un élément de rapport de force sur nous, la prise en charge de la politique d'immigration. On sous-traite à qui ? À la Libye, aujourd'hui, les questions des migrations. Dans les faits, l'Union européenne ne met de l'argent que pour fermer ses frontières. Parvient-elle à le faire ? Non. Vous savez, tous les grands spécialistes, y compris de l'ordre public, savent qu'on ne ferme pas des frontières, les gens passent quand même. Quelle est la différence ? Quand ils passent et que vous avez soi-disant fermé les frontières, vous ne savez pas qui rentre. Et on a aujourd'hui un développement des clandestins. On a aussi des bidonvilles itinérants maintenant en France, avec des réfugiés qui ne sont pas correctement pris en charge, des déboutés de droits d'asile. En clair, on est en train de mettre la poussière sous le tapis en pensant que tout ça ne nous éclatera pas la figure. Moi, je suis favorable à 1) une harmonisation de la politique d'asile au niveau européen, européen. 2, des visas humanitaires. 3, une mise en cause d'une politique de sauvetage en Méditerranée. On ne peut pas continuer à laisser mourir les gens. Et enfin, 4, la remise en cause de ce qu'on appelle le règlement de Dublin, qui veut que la géographie décide à la place de la politique. La Grèce et l'Italie doivent-elles supporter seules la charge et le fardeau, justement, de ces migrations? Je ne crois pas, et c'est la raison pour laquelle je prône une politique radicalement différente de M. Macron et Mme Le Pen dans ce domaine-là. J'essaye d'être réaliste et en tout cas pas démagogue et clientéliste comme ils le sont et l'un et l'autre.
Une dernière question, vous avez fait, Benoît Hamon, 6% à la présidentielle, vous avez été battu aux législatives. Si vous ne dépassez pas les 5% aux européennes, est-ce que ça pourrait vous inciter à vous remettre en cause, à arrêter la politique?
Mais, vous savez, c'est pas parce que vous continuez que vous ne vous remettez pas en cause. Mais tous les jours, je me remets en cause. Mais est-ce que on doit cesser d'être fidèle à une idée que j'ai défendue dans la transformation de ce qui me semble nécessaire de notre rapport au travail en lien avec la révolution numérique? Les chiffres m'ont-ils donné raison ou tort? L'OCDE vient de dire que 14% des emplois seraient en France impactés par la révolution numérique, détruits ou transformés, 30% d'entre eux. C'était 9% avant les élections présidentielles, j'avais raison. Sur la question de la transition écologique, les perturbateurs endocriniens, leur glyphosate, j'en ai parlé pendant la présidentielle. Et avais-je tort? Je ne crois pas. Donc il faut se battre, et même si les vents ne sont pas favorables, je suis breton, moi, vous savez, on apprend à naviguer avec vent dans le dos, ce qui ne m'est pas arrivé beaucoup depuis quelques temps, mais aussi vent de face, il faut savoir tirer les bords, comme on dit, et j'essaye de le faire avec, en tout cas, honnêteté.
Merci Benoît Hamon.
Benoît Hamon, qui était l'invité d'André Crespo-Mara ce matin pour l'interview politique de la matinale.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. Le procès Balkany qui s'ouvre aujourd'hui. Et puis l'émotion et l'hommage national aux soldats d'élite tués lors de l'opération de sauvetage des otages français enlevés au Bénin. Vous entendrez la compagne d'un des deux militaires tués. A tout de suite.
Dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Le plaisir de commencer la semaine et de retrouver notre revue de presse avec David Abiker. Bonjour David.
Un plaisir partagé, Nikos, et bonjour Céline.
Bonjour.
Ce matin, la une de la presse, ça ressemble à un mauvais film. C'est la chute de la maison Balkany, racontée dans tous les journaux avec force photos et détails, et notamment des bifetons.
Bifton, il en parle toujours, Nicolas Canteloup, quand il imite les uns et les autres, quand il imite les protagonistes de la politique ou de l'économie. Nicolas Canteloup, la revue de presque, pour bien commencer la semaine à 8h40.
Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo, c'est avec Laurent Cabrol.
Monsieur Cabrol. C'est une météo qui vaut quelques roupies aujourd'hui, puisque quand même, nous avons un temps magnifique.
Profitons-en.
Alors, si vous projetez, chers amis, à travers la France, vous avez la France sous les yeux, vous avez un hexagone, et puis quoi, bien du soleil, un ciel dégagé, avec malheureusement un petit peu vent de nord-est. Ce petit vent de nord-est de 50 à 70 km/h apporte un brin de fraîcheur, mais croyez-moi, ce sera une journée sympathique et dont il faut profiter. Mardi et mercredi seront des journées également ensoleillées, ce qui nous permettra de reprendre le boulot avec un peu plus de vigueur et de bonne humeur. Le vent sera fort également, mardi et mercredi. Jeudi, ce sera, allez, on va appeler ça un beau temps nuageux. Il y aura quand même quelques nuages qui seront de passage. Vendredi, eh bien, la pluie commence à arriver par le sud-ouest, les Languedoc-Roussillon, le vent marin, les vents de sud. Mais toute la semaine, les températures resteront agréables.
Vous l'aviez prédit la semaine dernière. Vous n'êtes pas Madame Soleil, mais vous l'aviez dit. À partir de lundi, le soleil revient.
Oui,
des seins de glace.
Exactement,
oui, c'est un truc comme ça.
Ouais.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 13 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
On se retrouve dans quelques instants, juste après ça, tout de suite.
7h, 9h, 2 heures d'info sur Europe 1.
Toute l'actualité, c'est maintenant avec vous Nico Saliagas.
Un hommage national sera rendu demain aux deux soldats tués au Burkina Faso dans l'opération de sauvetage des deux otages français. Alain Berton-Cello, 28 ans, et Cédric De Pierre-Pont, 33 ans. Florence Charton était la compagne de ce dernier. Bouleversant témoignage ce matin sur Europe 1. Elle se souvient de leur dernier échange.
Je l'ai eu rapidement par téléphone, juste avant qu'il parte pour la dernière mission. Ce dernier mot, c'est qu'il ne pouvait pas rester très longtemps parce qu'il était sur un départ. Et le lendemain matin, quand j'ai vu que je n'avais pas de message à mon réveil, je me suis dit qu'il n'était pas encore rentré. Je ne pouvais pas imaginer que c'est parce qu'il était mort. Personne ne réalise, on a tous l'impression qu'il va rentrer, que c'est juste un mauvais rêve. Mais non, il ne reviendra plus jamais. Pas juste un métier, c'est en eux, ils vivent pour ça. Donc on ne peut pas les empêcher de partir. Et si c'était à refaire, je sais qu'ils y seraient retournés. Ce qu'on était en train de bâtir ensemble pour finir notre vie ensemble, ça pourra plus se produire. il laisse un vide immense.
Par téléphone, Florence Charton, micro de Marguerite Lefebvre. Isabelle et Patrick Balkany face à la justice. Le maire LR de Levallois et son épouse, première adjointe, doivent comparaître pendant 6 semaines, notamment pour faute fiscale. C'est tout un système que Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticorps Partie Civile au procès, veut voir condamné sévèrement.
Ce qui est un petit peu étonnant, c'est pourquoi il reste dans le circuit, pourquoi est-ce que finalement il arrive à avoir des élus qu'il soutienne bec et ongles jusqu'à la fin. Peut-être que certains ont eu intérêt à un moment donné de le laisser en place. Ce procès va mettre un petit peu en lumière nos propres insuffisances, notre incapacité finalement à nous débarrasser de ce type d'individu très vite. On a en plus une organisation familiale et j'espère qu'effectivement il y aura des sanctions sévères pour que ça soit un petit peu dissuasif pour les autres à l'avenir.
Jean-Christophe Picard avec Salomé Legrand. L'IGPN débute aujourd'hui les auditions de lycéens interpellés en décembre dernier en marge d'une manifestation à Mantes-la-Jolie. 152 jeunes avaient été interpellés après avoir été pour certains parqués, genoux à terre et mains derrière la tête. Dans l'actualité également, un mot de football. Cette fois, c'est bel et bien fini pour l'équipe de Marseille, pour l'OM de Marseille. Plus d'espoir européen puisqu'ils ont été laminés par Lyon hier soir au stade Vélodrome. 3-0.
Europe 1. Et il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Coucou.
À la une de ce matin, des couples et un procès.
Des couples, oui, à commencer par les époux Balkany, Isabelle et Patrick, dont le portrait fait la une de Libération, avec ce titre qui colle à merveille avec le sourire carnassier du maire de Levallois. Fini de rire, c'est l'heure des contes qui a sonné pour Le Parisien aujourd'hui en France. Idem pour Sud-Ouest. Mais pour les éditorialistes, la chute des époux Balkany devrait marquer la fin d'une époque, comme l'écrit Yann Marek dans Le Midi Libre, et refermer cet autre monde, celui des affaires et de la politique. Celui qui a fait tant de mal à la Ve République. Dans la Charente libre, Jean-Louis Hervois a une pensée pour les absents. Tous ceux du RPR d'hier aux Républicains d'aujourd'hui qui ont couvert, conforté, assisté et profité des magouilles et tromperies qui se tramaient à Levallois. Et dans Libération, Laurent Geoffrin questionne lui les électeurs de Levallois. Ce sont eux qui ont fourni à Balkany son assurance vie politique en le réélisant comme des robots. Mais dans les journaux ce matin, un autre couple, celui formé par les deux otages français libérés vendredi. Eux aussi ont bénéficié d'une assurance vie qui s'appelle l'armée française. Eux aussi font l'objet d'un procès, mais sans doute un faux procès, qu'il faut lire ce matin entre les lignes des éditos.
Et c'est Yves Tréhard du Figaro qui a la plume la plus sévère.
Les soldats français avaient d'autres missions à assurer que de secourir deux touristes, même si c'est le devoir de l'État français. Aujourd'hui, ce n'est pas le soulagement qui domine, mais l'indignation. On ne souhaite plus jamais pareil piège tendu à nos soldats, dit Yves Tréhard. De l'indignation à l'indignité pour les otages libérés, jugés imprudents, inconséquents par l'opinion des réseaux sociaux, la frontière est ténue au point que Jean-Marc Chevauché du Courrier Picard se demande pourquoi le président de la République est allé les accueillir à l'aéroport. Qu'allait-il faire dans cette galère, le président, interroge l'éditorialiste qui estime que les deux hommes libérés n'avaient pas besoin de lui puisqu'ils n'étaient ni des humanitaires ni des journalistes. Bref, à lire la presse ce matin, il y aurait donc deux catégories d'otages. Ceux dont il faut se réjouir de la libération et ceux qui n'auraient pas dû partir et exposer les soldats au risque de leur métier. Faire cette distinction, c'est admettre qu'il y a otages et otages, français et français, qu'il ait des risques légitimes et d'autres qui le sont moins. Pourtant non, il y a un État qui protège tous les ressortissants et c'est l'honneur et le devoir de la République et de ses soldats de les secourir sans jugement. L'héroïsme est à ce prix.
Après l'exemplarité des héros, la corruption des élus.
Il faut ouvrir ce matin les journaux pour lire ce qui ressemble au scénario d'une série politico-financière que Netflix ou Canal+ pourrait intituler « Grandeur et décadence des époux Balkany ». Récit d'une chute, titre Les Échos, la chute de la maison Balkany, les Balkany dans le box, la fin d'une époque. Qu'on le veuille ou non, ces deux-là nous ont accompagnés pendant plus de 30 ans. Leur Dallas à eux, c'est Levallois. Et c'est en ouvrant Le Parisien aujourd'hui en France qu'on réalise à quel point l'histoire de ce couple a marqué son époque. Sur une double page, voici donc le casting casting. Un homme et une femme, un mariage qui tient malgré le temps, un mariage dopé par la passion du pouvoir, par le désir de transformer une ville, par le goût des autres aussi, cette vocation du service public qu'en sciences politiques, on appelle aussi le clientélisme. Les Balkany dans les journaux, c'est aussi un roman photo. Les enfants, l'avocat, le directeur de cabinet, Didier Schuller, dont le témoignage sera déterminant dans leur chute en 2013. Et enfin, il y a le décor. Le moulin de Giverny, le palais oriental de Marrakech, la villa à Saint-Martin, et puis les bifetons. Ah, les bifetons, il faut lire dans Libération la place d'Elias de 500 euros dans ce décor. Bifeton oublié dans un costume envoyé au pressing. Bifeton échangé dans un supermarché pour de plus petites coupures. Bifeton toujours repéré par cet employé de maison du moulin de Giverny et que citent les échos sur la longueur, j'ouvre les guillemets. « Je ne sais pas d'où provenaient les espèces, dit le domestique. Monsieur Patrick Balkany arrivait au moulin avec son attaché-caisse et sortait une enveloppe marron, épaisse, qu'il emportait directement dans son coffre au premier étage. J'ai le souvenir d'avoir par curiosité compté une liasse de billets qui était sur le bureau de leur chambre. Il y avait 8000 euros. C'était son argent de poche. Il en avait même régulièrement dans les poches de son peignoir. » Je ferme les guillemets. Un peignoir brodé aux initiales PB pour Patrick Balkany. On pourrait sourire en imaginant le maire de Levallois en peignoir avec son cigare. Pensez même à Jean-Pierre Marielle dans sa sublime robe de chambre fuchsia dans Comme la lune de Jean Seria. Mais on ne sourit plus du tout en découvrant toujours dans les échos la complexité des montages financiers et juridiques mis en place en 30 ans pour financer non plus une carrière politique, mais un train de vie personnel. Après 6 ans d'enquête, énumèrent les échos, Patrick Balkany sera jugé à partir du 13 mai, donc aujourd'hui, et durant 6 semaines pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêt et déclaration mensongère de situation patrimoniale à haute autorité, j'en bafouille, pour la transparence de la vie publique. Une liste longue comme une histoire qui parle d'un temps que l'on croyait révolu, conclut les échos, celui des affaires, du financement et de la corruption politique. Aujourd'hui, Nikos, je n'ai pas de chute à part celle des époux Balkany, largement décrite et anticipé dans les journaux de ce matin.
C'était la revue de presse avec David Abiker. Merci David et à demain.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive dans une minute et quelque chose me dit que ce matin il ne va pas me louper. Enfin, il ne va pas me louper grand monde. Nicolas Canteloup.
Fête, oui.
Et sa revue de presse, que je le vois dans les yeux de Julie qui corrige, qui rature, mais elle sait.
Ah oui, elle sait.
Vous avez vu l'étincelle qu'elle a dans l'œil ? On va rigoler, à tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h41. Il est 8h42.
On commence la semaine dans la bonne humeur avec la revue de presse qui est Nicolas Canteloup.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup qui arrive en courant.
Ouais, ouais.
Allez, on démarre par le titre principal de l'actu. Par Nikos, bien sûr.
Ouais, salut à tous, c'est le morning d'Europe One. Une matinée spéciale, vous l'avez compris, un événement exceptionnel. C'est mon birthday. Mon birthday d'anniversaire de 50 ans. Après 50 Shades of Grey, c'est 50 Years of Greek. C'est aussi, il faut le préciser, de façon très accessoire et annexe, mais c'est aussi le birthday de notre ami Lolo Cabrol. On ne dira pas son âge, bien sûr, mais au moment, je vous le dis, chers auditeurs, au moment de la grande bataille de Verdun. Pendant cette foutue guerre de 14, Jean-Michel, Clémenceau était bien content de les avoir, les bulletins de météo de mon Lolo.
Oui, on passe du temps qui passe au temps qu'il fait, la vie est ainsi faite. J'ai présenté, mon cher Nikos, plus de 200 000 bulletins météo, dont il faut le noter, cher David Abiker, 27 avaient des prévisions justes et réussies. Ça reste un bon bilan. J'ai eu bonjour avec Saint-Ouette au passage qui traverse le hublot. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il passe, donc je le dis. Ça fait partie du paysage, vous voyez les animaux. On est impressionné d'être une réserve. On va pousser les animaux, comme c'est des dinosaures qui restent. Ouais. Oui, donc je vous dis, excusez-moi ces digressions, mais c'est mon anniversaire, je fais un peu ce que je veux. Ça passe vite quand même, mon Lolo. Hein.
Oui, Lolo. Allez, on se reprend. Même si on a la michette au bord des yeux. Putain, ça fait chier quand même, 50 ans quand même. La seule chose qui me console, c'est que j'ai à peine la moitié de Michel Drucker. Et que lui bosse encore aussi.
En tout cas, il y a une super ambiance ce matin pour nos anniversaires respectifs, mon Lolo. Il y a les équipes qu'on adore, il y a les amis. Et puis je salue quand même la présence des pompiers de Paris. Hein, merci les gars d'être là, merci d'être venus.
Mais comment ça, ils sont convoqués au 15 août, pourquoi?
Mais au cas où Lolo Cabrol soufflerait les bougies de son gâteau.
Quoi?
Avec ce qu'il a descendu ce matin, il peut nous faire une Notre-Dame de Paris sur l'immeuble d'Europe 1.
Oh non. Allez, soyons sérieux, Nikos.
L'info surround, ce sont les soucis judiciaires. On se reprend. C'est quand même l'actu qui
bah oui,
qui est notre cœur de métier, c'est notre colonne vertébrale. Donc l'actu, c'est quoi? Les soucis judiciaires de Patrick Balkany.
Eh ben tiens, le voilà justement. Ah, le voilà. Bonjour Patrick Balkany.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà, je vous ai fait un petit panier garni, cher Nikos Aliagas.
Ah, merci.
Voilà, c'est pour vous. Il y a une Rolls blanche, des Rolex, une mallette de billets de 500. Et voici les clés de votre riad à Marrakech.
Non, mais attendez, il ne peut pas accepter, Nikos. Ça ne va pas, non, c'est Balkany, vous vous rendez compte? À la radio,
ça, ça va très bien, cher Gilles Leclerc. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite, de toute façon. Tout est déjà à son nom, voilà, c'est à vous Nikos, tout est à vous, en tout cas c'est ce que je dirais cet après-midi au tribunal.
Vous mettez dans l'embarras.
Petite parenthèse, je suis nommé ce soir au Molière sur France 2 22h45, j'espère que je serai nommé comme meilleur comédien pour ma composition dans Je suis innocent, la pièce que je joue depuis 20 ans.
Ben, ce serait mérité, monsieur Balkany.
À guichet fermé, à pognon fermé, à tout fermé.
Ah oui, vous le méritez. Après les tragiques événements survenus au Bénin, se pose la question du tourisme dans les zones à risque. Le parc où s'étaient rendus les deux touristes enlevés était-il dangereux? Didier François, vous êtes grand reporter à Europe 1, on vous écoute, bonjour.
Alors, salut, Julie. Oui, alors c'est une question compliquée. Les zones à risque, les situations bougent en permanence, donc la cartographie est difficile à cerner. Du coup, faut très bien se renseigner avant de faire du tourisme. Évidemment, la Syrie ou le Yémen en ce moment, c'est pas le meilleur endroit pour poser son transat et commander une pina colada.
Bon, oui, mais vous qui êtes bien informé, il y a d'autres endroits à éviter absolument.
Alors, à éviter absolument, effectivement, il y a d'autres endroits. Il y a Disneyland
Paris. Disneyland.
Franchement, faut pas y aller. Je suis allé. Il y a des enfants qui braillent partout. La bouffe est dégueulasse. Les manèges, honnêtement, il y en a 4 ou 5 qui valent le coup, mais à part ça, il faut pas y aller. Et puis il y a leur espèce de. De musique qui rend dingue. Oh putain. Oh, faut pas y aller. Voilà, c'est celle-là, la musique de l'enfer. Voilà, merci la régie.
Pardon, Julie, je me permets d'intervenir.
Ah, Nicolas Barré, bonjour. Alors, éclairez-nous un petit peu. Tiens, ça tombe bien. On imagine que les pays à l'économie fragile sont les pays qui sont le plus à risque, c'est ça?
Évidemment, Julie, du coup, la meilleure zone pour faire du tourisme, c'est Francfort.
Mais... T'as dormi?
Voilà, je voulais révéler ma technique pour faire Nicolas Barré. Faut moucher une narine. Moucher en même temps. Des fois, il y a des pertes. Voilà, donc Francfort, c'est une culture passionnante. Vous prendrez beaucoup de plaisir à visiter les sièges sociaux de la Lufthansa ou de Volkswagen, les succursales d'établissements bancaires ou encore le musée du Deutsche Mark. D'ailleurs, voilà, Nico, c'est mon cadeau. Deux invitations pour le musée du Deutsche Mark à Francfort. On y va ensemble ce week-end. Faut y être à l'ouverture à 5h du matin. Je vous présenterai les sœurs Kukischmut, Greta et Frida Kukischmut.
Vous allez vous régaler, Nico. Quel beau cadeau d'anniversaire, vraiment. Allez, on va revenir sur cette polémique. Le président devait-il accueillir les deux touristes enlevés au Bénin à leur retour sur le tarmac de Villacoublay? Emmanuel Macron, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, forcément, on va beaucoup moins rire avec moi, vous l'avez compris. Eh bien, bon anniversaire à vous, cher Nikos.
Même, oui.
Merci. En télé, vous faites 50 minutes inside, alors qu'en vrai, vous avez 50 années inside. Mais outside, vous faites beaucoup moins.
Mais c'est gentil pour lui. Hein, très gentil. Alors, revenons aux otages. C'est vrai que c'est pas malin d'aller dans des territoires dangereux. Hein.
C'est pas malin. Oui, d'ailleurs, je le redis à mes compatriotes, cette semaine, sur le site martyrpascher.com, il y a une semaine en Syrie, à Damas,
oh là là.
Pension complète. Bah, non, pardon, j'ai mal lu. Pension complètement détruite pour 250 euros la semaine.
Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que là-bas, j'y suis allé, tout est détruit. Il n'y a plus un hôtel qui vient debout. Oh non, putain. Arrêtez. Oh, arrêtez cette attention. C'est du LBD pour tympan. Faut arrêter avec ça.
Alors, monsieur le président, reprenez. Hein.
Merci, cher Didier François, pour cette intervention. Bref, n'y allez pas. Pareil pour le trekking à Islamabad ou le saut en parachute en Corée du Nord ou la cure de bien-être à Fallujah. Qu'est-ce que ça peut être con, un touriste,
franchement? Bon, ben, ces touristes, ils voulaient simplement visiter le parc Tanjari, voilà.
Oui, mais écoutez, il y a d'autres parcs à visiter. Il y a le parc Astérix qui est très bien. Et puis, ça m'éviterait de passer mes week-ends à Villacoublay. Puis il y a quand même d'autres destinations vacances. Je pense au Club Med de Djerba. À part un coup de soleil sur le cul, on risque pas grand-chose. Vous voyez, je suis prêt à fournir même la biafine, si voilà. Vous le souhaitez. Bon,
alors, quels sont les endroits à éviter, les véritables zones à risque?
Mais écoutez, on les connaît tous, ces endroits. Il suffit d'aller sur le site du Quai d'Orsay. Il y a le Bénin, il y a l'Afghanistan, Kaboul, Mossoul, Marseille, le Soudan, la Creuse.
La Creuse est déconseillée pour des vacances. C'est risqué, la Creuse.
Ah ben vous risquez de vous faire chier, oui.
Oh là là. Merci monsieur le président. On adore nos auditeurs qui habitent dans la Creuse.
Voilà, je suis d'audience dans la Creuse.
Jean-Pierre Raffarin est de tous les meetings pour soutenir Nathalie Loiseau. On l'accueille tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin.
Alors la campagne est officiellement ouverte depuis aujourd'hui. Il serait peut-être temps qu'elle décolle, hein, cette campagne.
Mais écoutez, Nathalie Loiseau, Nathalie va décoller. Elle va déployer ses ailes, tel un albatros, pour survoler cette campagne et atterrir en douceur sur Bruxelles.
Excusez-moi, mais l'albatros, c'est l'oiseau qui est connu pour mal décoller et surtout se cracher à l'atterrissage.
Oui, c'est à dessein, c'est tout à fait ce que j'ai dit.
Excusez-moi, je suis là, c'est moi.
C'est moi,
oui,
qui
c'est moi.
Alors, c'est qui?
Mais c'est Nathalie Loiseau, oui. Je suis quand même tête de liste. Écoutez, je vous écoute depuis ce matin, j'ai un petit peu soupé de vos critiques permanentes. Est-ce qu'on peut parler de ce qui me passionne les Français, c'est-à-dire l'Europe? L'Europe, c'est important, vous savez, l'Europe. Monsieur Aliégas, c'est grec, je crois. Vous me laissez terminer tout de même, j'ai l'air pour m'exprimer. La Grèce, que je sache, c'est l'Europe. L'Europe que je souhaite, bien sûr, développer. Alors, je ne suis pas venu les mêmes villes, monsieur Aliégas, pour vos anniversaires respectifs, monsieur Gabon également. Je vous offre deux places pour mon meeting de 5h ce soir à Tourcoing.
Non, on ne dit pas Tourcoing. On dit Tourcoing.
Oui, mais écoutez, moi, vous savez, je suis Neuilly, je connais très bien Neuilly, Versailles, je ne connais pas toutes les grandes villes d'Europe. En tout cas, je sais que Tourcoing, on est c'est la même, à côté de Roubaix.
C'est ça, ouais.
On est de Roubaix, oui, écoutez, je connais quand même un petit peu ma géographie.
Eh bien, on va vous laisser, merci madame Loiseau.
Ce soir, monsieur, vous serez invité.
Quel bonheur. La SNCF recrute. Aujourd'hui et demain, un grand forum est ouvert, on reçoit le représentant SNCF. Bonjour monsieur Régis.
Bonjour.
C'est formidable que la SNCF recrute. Cela dit, c'est essentiellement pour compenser les départs à la retraite.
Ben oui, Maline. Faut bien remplacer tous les vieux cheminots, ces vieillards de 42, 43, voire 44 ans, qui méritent enfin se reposer.
Ils partent à la retraite à 44 ans.
Oui, minute. Pas d'ironie, là. T'as déjà conduit un TGV, la vedette?
Ah non, moi jamais, hein, jamais.
Ouais, ben, 44 ans, c'est l'âge limite. Vous bossez, vous, après 50 ans, monsieur Aliégas?
Oui.
Oh, la vedette! Oh, il a rien compris à règle du jeu, lui. Fallait bosser chez nous à la SNCF. Vous seriez déjà en slibar sur une plage de Mykonos depuis 8 ans! Bref, après 44 ans, tu peux plus piloter un TGV. T'es lessivé! Hein, puis de toute façon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la SNCF recrute. Regardez, il y a plein de candidats. Ils attendent tous un repas. C'est pour bientôt, les gars. Mais faut avoir les compétences. Tu peux rejoindre une entreprise qui fait rêver, le Real de Madrid, du service public, Pati, c'est la SNCF. Ça vous tente, la SNCF?
Moi j'ai lu Parisien ce matin. Les candidats sont évalués grâce à un escape game. C'est moderne, ça, dites donc.
Non, c'est pas le jeu le plus important. Le plus important pour intégrer la SNCF, c'est on teste les candidats sur le 1, 2, 3 soleil.
Ah, le jeu où on doit s'arrêter dans la seconde quand la personne qui dit y a un, deux, trois soleils se retournent. Mais attendez,
un, deux, trois, un d'Acosta.
Alors, le jeu là que j'expliquais, c'est pourquoi faire ce jeu là où on se retourne quand
c'est on dit pour un... voir qui est capable de s'arrêter. De débrayer dans la seconde. On joue, on adapte le jeu, c'est le 1, 2, 3, la grève. Si t'es immobile, t'as gagné. 1, 2, 3, la grève, faut pas bouger. Allez, on le fait tous, attention. 1, 2, 3, la grève. Oh, vous êtes tous capables de bosser à cheville.
Allez, on a compris, on a compris.
Il y a des potentiels de cheminots à Europe 1. Vive la grève.
Vive Nicolas Canteloup.
Et de la part de toute l'équipe.
Ça me
là.
Touche
allez,
beaucoup.
Un petit cadeau à Laurent pour leurs anniversaires.
Alors, magnifique.
Rentrez ce que c'est.
Microsoft.
C'est magnifique, c'est un micro en
cristal.
Un micro en cristal.
Non, c'est du plastoc.
D'accord. C'est un micro en plastoc. Il y a marqué Nico 50 ans et en grec, bon anniversaire.
Et voilà.
Et il y a marqué en grec pour vous aussi, Laurent Cabrol.
Il y a marqué 200 000 météos.
Non, il y a le PPP.
PPP 200 000 météos.
Alors merci les amis, merci pour toute cette bienveillance. Merci. Non, pas PP du tout, il n'a pas d'âge, papa. Et je voudrais aussi un mot, mon cher Nicolas, pour vos autres. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, les voilà, ils sont régis aujourd'hui. Bon, et Julie, merci pour cette surprise.
Avec grande joie.
Wendy Bouchard,
c'est
votre anniversaire, en fait. C'est de la com, c'est de l'anniversaire de personne de journée.
Non, Laurent Cabrol, Nico Saliagas, c'est certifié. Et la présence de Nicolas Canteloup nous honore tous. Ça, c'est sûr que c'est un anniversaire pour chacun d'entre nous, grâce à toi, Nicolas. Merci infiniment.
Tous les jours avec nous.
On se retrouve pour deux heures d'info. Alors, une première heure pour débattre des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont en train de devenir fous ou de nous rendre totalement dingues?
Il y a
cette semaine l'appel de Christchurch. Vous savez, cet attentat, il y a plus de deux mois, filmé en direct par le terroriste. Il avait sa GoPro.
Ouais.
Il diffusait ça sur Facebook. Il a fallu attendre 17 minutes que le réseau social interrompt cette diffusion absolument macabre et morbide. Donc on va s'interroger sur le sujet, comment on régule, comment on canalise. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, était à l'Elysée vendredi. On reçoit le secrétaire d'État au numérique aujourd'hui, Michael Stora. Et puis un jeune bodyguard sur les réseaux sociaux. Il donne ses services gratuitement pour vous protéger. Et puis à partir de 10h, on va parler de la grossophobie, cette haine des gros, la discrimination des personnes en surpoids. C'est vrai qu'on ne les voit pas, elles sont plutôt invisibles. Et il y a un grand documentaire et une soirée télévisée suivie d'un grand documentaire mercredi soir sur France 2. On en parle ce matin, on fait le tour de la question.
On a hâte de vous écouter à partir de 9h, ma chère Wendy Bouchard. Votre émission, c'est le tour de la question.
À suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Il est 8h57 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Eh bien, il n'y a rien à dire.
Il fait beau, profitons-en. Est-ce que ça va durer? C'est la seule question que je vais vous poser.
Ça va durer lundi, mardi, mercredi, ce seront des journées très ensoleillées. Et à partir de jeudi, ça commencera un petit peu à se voiler. Et nous aurons ce que nous appelons, nous, un beau temps nuageux. C'est un beau temps, un soleil qui sera quand même dans l'ensemble très présent. Et des températures qui vont s'échelonner entre 15 et 20 degrés. Et malheureusement, fin de semaine, surtout sur les régions de la moitié sud, nous allons vivre un temps, là, cette fois, beaucoup plus nuageux et beaucoup plus orageux. En fait, je crois que la tendance de ce mois, de cette fin de mois de mai, si je dois la définir, après avoir un peu ausculté tout ce qui se dit en la matière, je dirais que ce sera une fin de mois orageuse, chaude, mais il pleuvra. Il pleuvra quand même sous forme d'orage. Et savez-vous que la nuit, entre samedi et dimanche, non, entre vendredi et samedi, sur Paris, il a plu autant que durant tout un mois de mai.
Oui.
Donc vous voyez qu'on refait les nappes phréatiques et on remet de l'eau un peu partout.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure sur Europe 1.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel d'un matinal, ce qu'il ne fallait pas rater ce matin, le système Balkany devant la justice, le maire de Levallois et sa femme comparaissent à partir d'aujourd'hui et pour 6 semaines pour fraude fiscale et corruption. C'est l'un de leurs anciens proches, Didier Schuller, qui a tout déballé. Écoutez son témoignage exclusif pour Europe 1, c'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Pendant plus de 20 ans, j'ai fermé ma gueule. À partir de 2013, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. Ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel.
Le procès Balkany qu'on suivra attentivement sur l'antenne d'Europe 1 et sur europe1.fr. Il s'appelait Alain Berton-Cello, il s'appelait Cédric de Pierremont, deux hommes à qui la France prépare un hommage national. Il aura lieu demain aux Invalides. Les deux soldats d'élite sont morts dans l'opération de sauvetage des otages enlevés au Bénin. Écoutez l'émotion du père d'Alain Berton-Cello. Un immense chagrin, mais aussi une très grande fierté. C'était dans le journal de 8h.
Mon fils, il a fait son job, quoi. Il a réussi sa mission. Ça fait partie de la vie du militaire. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Élysées, pour lui, c'était un honneur. Donc aujourd'hui, ça sera un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier, quoi. Je veux dire, on vient de perdre son fils, si en plus. Si on n'est pas fier, ça serait quand même... Je ne comprendrais pas, quoi. Enfin, moi, je suis fier de mon fils.
Voilà, un témoignage très fort ce matin sur notre antenne. Voilà pour l'essentiel des matinales, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Rendez-vous demain dès 6h50 pour le passage de relais avec Mathieu Noël et Eva Rock. Céline Dacosta, je vous souhaite une belle journée.
Mais je vous souhaite une très belle, et je crois qu'elle n'est pas terminée. Elle va être très belle votre journée aujourd'hui.
Et merci à vous, auditeurs, auditrices, pour tous vos messages.
Derrière vous. 50 ans et des fleurs, évidemment. Aussi. Vous pouvez voir tout ça sur europe1.fr.
Oh là, vous me gâtez. Merci Europe 1, merci les amis, merci infiniment. Je vous embrasse.
Bon anniversaire, Nicolas.
À demain.